Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission Au bout du foot, une émission spéciale présentée par Eladji Makalou. Bien évidemment aujourd'hui on va parler de football malgré qu'on soit dans un campus de handball. Et voilà, l'émission est déplacée aujourd'hui spécialement avec nous de bons invités et des revenants, hein, un revenant surtout dont on va présenter à la fin. Salé, comment ça va Salé?
Ça va, nickel, et toi?
Ça va, super, t'as mangé des petits fours avant
Un petit peu, ouais, on a visité le campus, franchement, après le campus, et franchement, on a dit, hein, ça fait du bien de changer un peu d'air.
Merci Salson. Il y a Alexandre qui est parti se gaver un peu de bons petits fours, qui va pas tarder à nous rejoindre. Et bien évidemment, Abou qui va nous rejoindre aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un invité spécial qui est de retour, hein, on peut le dire comme ça. Hein. Stéphane, comment ça va Stéphane?
Ça va très bien, je ne sais pas si l'invité est spécial, mais effectivement, ça fait un petit moment que...
Ça fait un petit moment, en tout cas, qu'on n'a pas entendu tes coups de gueule et
moi, j'en ai pas trop,
et
là,
tes coups de cœur, en tout cas, voilà. Mais tu vas nous faire part de tes analyses et de ce que tu as vu, du moins depuis cette semaine sur le football.
Ouais, tout à fait, bah, je ne vais pas me gêner. Sinon, je ne serais pas venu.
C'est bien ce que je me disais. Ça va les petits fours, Alexandre?
Non, j'étais juste aux toilettes rapidement. Ah. Malheureusement, on ne va pas pouvoir bénéficier des petits fours, nous. Mais parce qu'on est au travail, là, on va parler foot. Et ça fait plaisir d'avoir Stéphane autour de la table, parce que ça fait longtemps.
C'est ça, c'est ce qu'on disait juste avant, ça faisait un petit plaisir. Ça faisait plaisir de le revoir autour de la table. Et Alexandre, bonne semaine de football?
Bonne semaine de foot et franchement, il y a beaucoup de choses à dire. En plus, on a encore une belle semaine de foot là
qui arrive fortement
et franchement, ouais, beaucoup de choses à dire et j'ai hâte d'en parler.
Hâte d'en parler avec un maillot de Manchester United. Hein.
ouais, j'ai mis le premier qui était dans ma garde-robe. Parce que,
ouais. C'est un joli maillot en tout cas. On espère qu'il y a un joli joueur aussi floqué derrière. à part ça, en tout cas, on va vous parler bien évidemment de la Ligue 1. On va vous parler aussi de la Première Ligue. Ne vous inquiétez pas. On va vous parler de la Liga. On va vous parler de la Coupe de France. On va vous parler de la Coupe du Roi. On va vous parler bien évidemment aussi de la Ligue des Champions qui arrive la semaine prochaine. Bref, beaucoup de sujets à traiter. On commence dès maintenant avec la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, sacré champion. Voilà un Paris Saint-Germain avant ce début de saison qui a été beaucoup critiqué, hein, où beaucoup de gens pensaient que ça allait être compliqué pour le Paris Saint-Germain cette année. Et ben non, finalement, c'est un Paris Saint-Germain qui ont remporté leur 13e titre de champion de France assez aisément et surtout pour l'instant invaincu. C'est le point à noter aussi. Ouais. Il reste plus que 5 journées, si je ne me trompe pas.
5 en Ligue 2 et 6 en Ligue 1.
5 en Ligue 1.
6 en Ligue 1. On a fait la 28e, là. Donc, ça fait 29. Donc.
Autant pour moi. Du coup, voilà. Il reste encore 6 journées. Paris qui sont à 6 journées, tout simplement, de réaliser l'exploit, hein, du jamais vu en Ligue 1. Ça peut arriver, Stéphane.
Ouais, ça peut arriver, mais c'est vrai que ça va être. Je pense que ça va être. Cette équipe en est capable, mais je pense que ça va être très, très difficile. Parce que maintenant, il n'y a plus d'enjeux. Bon, déjà, on va voir si ça va être difficile. Ils s'en sont bien sortis là, parce qu'ils sont champions officiellement depuis ce week-end, mais officieusement, ils sont champions depuis au moins 15 jours ou 3 semaines, le Paris Saint-Germain, au minimum. Et ils ont quand même gagné leur match. Donc maintenant, il va falloir. Encaisser la décompression. On a vu que c'était moyen le début de match à Saint-Etienne, moyen la première mi-temps à Dunkerque, pas extraordinaire le match contre Angers. Donc c'est sûr, mais de toute façon, c'est des humains. Hein. Quand on joue la Ligue des Champions, on est en quart de finale de la Ligue des Champions, on a forcément autre chose dans la tête. Donc je pense que ça va être. Donc ils vont être plus fragiles, mais on va voir comment ça va se passer. Notamment, par exemple, le match qu'ils vont jouer à Strasbourg, par exemple, qui va être, je pense, qui peut être compliqué dans la motivation. C'est clair que la motivation, il ne faut pas être... Même, Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais même le fait de dire « nous, on se bat pour rester invaincu », et bon, effectivement, marquer l'histoire de la Ligue 1, et face à une équipe qui va se battre pour jouer la Ligue des Champions. Donc je pense que le, quoi qu'on en dise, la motivation elle va forcément être supérieure au, du côté de quoi. Ça, c'est mon avis.
Oui, après, peut-être pas, puisqu'il y a des joueurs aussi qui sont là pour les records, justement, et pour battre ces records-là. Et ça, c'est sûr qu'ils rentreront dans la légende et dans le marbre à partir du moment où ils feront, parce que ce n'était pas l'équipe la plus... forte qu'on ait eue, c'est sous l'ère Qatari, hein, on peut le dire, même si aujourd'hui on est très content de ce qu'ils produisent en termes de football, mais en termes de nom, c'est pas l'équipe la plus bling-bling qu'on ait eue, et on aurait pu penser à d'autres 11 qui auraient pu arracher cette invincibilité au sein de la Ligue 1. Du coup, il y a d'autres joueurs et qui arrivent, et surtout Luis Enrique qui lance à chaque fois de nouveaux joueurs et qui essaye de motiver au maximum les troupes. Moi, je pense que les 6 dernières peuvent être aussi de bon augure pour les Parisiens. Salson, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Le fait que le Paris Saint-Germain soit champion, bah, de toute façon, là, ils l'ont mérité. Hein. S'ils n'ont pas, ils l'ont pas volé. C'est, franchement, moi, je pense déjà que c'est le plus beau titre sur l'ère qatarienne. Parce que tout a été fait avec la manière. Et au début de saison, tout le monde les avait critiqués. Tout le monde avait critiqué Luis Enrique. Moi, pour moi, il n'y a rien à dire sur ça. Franchement, j'espère qu'ils vont même faire cette invincibilité jusqu'à la fin de la saison. Et ce serait vraiment beau pour la Ligue 1. Parce que voilà, le Paris Saint-Germain le mérite, Luis Enrique le mérite, et ils ont toujours joué les matchs à fond, ils ont toujours joué les coups, ils ont jamais ils ont toujours été constants dans leurs résultats, et comme tu l'as dit, moi je te rejoins Stéphane, je pense là peut-être l'équipe qui pourra peut-être les titiller, ce sera Strasbourg, qui est une belle équipe, et voilà, franchement rien à dire, c'est assez logique,
Merci Salson. Alexandre, toi, qu'est-ce que tu peux nous redire sur le sacre du Paris Saint-Germain, tout simplement, et ce qui s'est déroulé en Ligue 1 aussi?
Alors, franchement, j'ai beaucoup de choses à dire, mais si je devais synthétiser, pour commencer, bravo à Paris déjà, parce que 13 titres, c'est quand même incroyable, même s'il y a tout le contexte qu'on connaît, mais il faut quand même souligner que c'est quand même incroyable de faire 13 titres. Après, moi, là où j'ai un bémol, c'est sur le niveau global de la Ligue 1, c'est que je trouve ça tellement regrettable, en fait, qu'on connaisse un champion aussi tôt, et surtout avec autant de points d'avance sur le deuxième, où t'as quand même des clubs comme Marseille et Monaco, où on les a vantés en début de saison, comme on fait tout le temps d'habitude, et au final, qui déçoivent. Là où Paris, si on parle de Paris, n'a pas déçu, a été très constant tout au long de l'année, et là je vais avoir le sourire, et je suis très heureux que le Paris Saint-Germain ait été aussi constant et ait, du coup, de ce fait, échappé aux critiques. Parce que on se souvient, des fois autour de la table, mais surtout dans d'autres médias ou d'autres personnes, critiquer énormément Luis Enrique, parce que là, au bout d'un moment, il faut en parler, critiquer beaucoup Luis Enrique, et moi, si vous regardez bien tous les podcasts, etc., Luis Enrique, j'ai toujours dit, faut laisser du temps à un entraîneur. La saison dernière, il y avait des résultats un peu plus compliqués, et encore, parce qu'il fait quand même demi de Ligue des Champions, Coupe de France, Ligue 1. Mais dans le jeu, c'était pas ça. Mais là, cette année, la grande différence avec les années précédentes, c'est que le Paris Saint-Germain nous a gâtés dans le jeu. Et on a trouvé un effectif qui était cohérent, où il y a certains manques à des postes, notamment le poste de numéro 9. Où il a voulu tester beaucoup de choses, etc. Mais dans l'ensemble, c'était cohérent, c'était une saison cohérente. Et c'est pour ça que, dans le fond, je trouve que c'est un beau champion. C'est un beau champion de Paris Saint-Germain. Je suis content que ce soit le Paris Saint-Germain qui soit champion cette année, mais je reste déçu dans l'adversité, en fait. Dans l'adversité proposée par les autres clubs de Ligue 1. Et ça, malheureusement, c'est pas de la faute du Paris Saint-Germain. Voilà.
Ouais, t'as tout à fait raison. Il faut savoir quand même qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur Paris Saint-Germain de l'histoire.
Ouais, j'ai vu beaucoup de stats sur ça.
Ah ouais, moi, je sais pas.
Tu l'as vu sur l'équipe?
Moi-même, j'avais fait il y a 15 jours ou 3 semaines un article pour le site en reprenant tous les résultats, bien sûr, en comparant bien sûr avec le fameux PSG de 2015-2016 de Laurent Blanc. Alors, comme c'était une journée à 38, un championnat à 20 équipes, il faut par point gagner. Genre, de mémoire, avant ce dernier match, c'était 2,5 points par match ou 2,51 points par match pour le Paris Saint-Germain de Blanc. Et là, on est à 2,62 points. Alors bien sûr, il faut qu'il garde le rythme jusqu'à la fin. Hein. Même en, Il y a que le seul endroit où ils sont battus, c'est au niveau de la défense. Où en moyenne, ils ont encaissé plus de buts que d'en encaisser l'équipe de Laurent Blanc.
Après, c'est sûr que si tu mets plus de buts derrière, tu encaisses aussi, hein, tu t'exposes beaucoup plus.
Voilà, ouais.
C'est la 10e défense, je crois, cette saison. Mais là, si tu permets, là, il y avait des stats moi, que je trouvais très intéressantes. Bon, ça, c'est plus pour les vrais connaisseurs de foot, mais je veux dire, il y a des stats qui ne trompent pas. Comme tu as dit, c'est le meilleur PSG de l'histoire. 68,3% de possession, c'est le meilleur taux de l'histoire du PSG. Les récupérations hautes, ça fait 9,8 récupérations hautes par match. Il faut savoir que les récupérations hautes, donc c'est le fameux contre-pressing, c'est quelque chose de très compliqué, qui a été parfaitement orchestré, notamment par Vitinha, João Neves, Zaïre Emery quand il est sur le terrain, Fabien Ruiz, etc. Et des passes réussies par match, 653. Des nombre de passes avant un but en Ligue 1 cette saison, 4,3. Donc c'est pour dire que en fait, c'est du beau football qu'on voit. C'est pas des victoires à l'arrache, etc. Et en plus, même on l'a vu, ne serait-ce que face à Dunkerque ou face à Dunkerque, même quand ils se prennent le premier but,
ouais, ils savent très bien réagir.
Saint-Étienne,
ouais,
voilà. Aussi. Hein. Exactement. Même quand ils se prennent le premier but, ils savent très bien réagir. Et on a beaucoup critiqué justement les entraîneurs catalans sur le fait qu'ils bridaient beaucoup leurs joueurs. Là, en fait, on n'a pas la sensation que les joueurs sont bridés, justement. En fait, on a juste la sensation qu'ils savent parfaitement ce qu'ils doivent faire, à quel moment le faire, et qu'ils sont maximisés et très bien exploités. Par exemple, Hakimi, il avait fait un très très bon début première partie de saison. Là, il a été un petit peu, on va dire, il a un petit peu baissé en régime en deuxième partie de saison, mais il fait une saison qui est extraordinaire. Des joueurs comme João Neves, Vitinha, ou Dembélé aussi. Dembélé, il faudra en parler, qui font des saisons en fait qui sont très très bonnes. Donc
à la mi-saison, on l'attendait pas comme meilleur buteur. On s'attendait jamais plus à Barcola Barcola ou Greenwood. En tout cas, ça se battait beaucoup entre les deux. Mm. Et finalement.
Moi, j'ai bien senti pendant un moment, je pensais bien que ça allait être Jonathan David aussi, même.
Ils ont un peu plongé.
Vers novembre, par là, il était bien placé, il était bien parti. Mais c'est clair, ce que les gens, je pense, les observateurs, bon, moi, c'est pas mon cas, j'ai pas été dans les émissions pour le dire, mais j'ai fait des articles, des plein de choses comme ça. J'étais fou. Quand tu dis effectivement que le PSG était un petit peu décrié par certains médias, c'est surtout un ou deux médias particuliers qui ont, qui ont un peu pignon sur rue, ou même pas un ou deux médias, un éditorialiste parmi un média. Non, mais c'est vrai. Prenez-moi.
Oh, tu peux citer le nom. On sait tous
Daniel Riolo, combien de fois vous avez assisté à des. On a assisté à des émissions sur RMC où vous aviez les 4 ou 5 commentateurs ou chroniqueurs à côté qui disaient mais arrête, tu dis n'importe quoi.
Parce qu'il fait une fixette.
Et là-dessus, le problème, c'est que comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur le monde, ça a tourné, ça a pris plus d'ampleur. Alors qu'il y avait, 90 observateurs qui pensaient que c'était bien. Et ce qu'il faut juste souligner, c'est que. Parce qu'il y a des gens qui disent, au début de saison, il ne faut pas oublier quand même, Enrique est bien gentil, mais bon, il a failli passer à la trappe et pas se qualifier pour. Parce que c'est ça, quoi. C'est quelqu'un, contrairement à tous les autres entraîneurs, qui a pris le risque, effectivement, peut-être de se gaufrer. En faisant, quand il va, par exemple, l'exemple typique, c'est quand il va jouer Arsenal sans Ousmane Dembélé.
Tu vois ça, juste, je te coupe, tu vois ça, c'est pareil, c'est OK, il va jouer sans Ousmane Dembélé, donc ça fait beaucoup parler, etc. Il y a eu un mauvais résultat pour Paris, mais il faut aussi regarder le match, tu vois. Il y a eu des poteaux, des occasions franches de Paris, et ça se joue tout le temps sur des détails, en fait. C'est pour ça que si ça avait tourné, si le ballon il avait été quelques centimètres plus loin, on aurait dit, oh, Luis Enrique, c'est un génie, oh, machin, tu vois, c'est des choses comme ça.
C'est sûr que justement, peut-être que tu dis. On aurait tendance à se dire, s'il y avait eu Ousmane Dembélé sur ce match-là, ça aurait peut-être fait le petit truc en plus qui l'aurait permis de faire un résultat.
Ça, on ne peut pas le savoir, parce que à ce moment-là, le Paris Saint-Germain...
Nos amis des émissions en question dont je parle, eux qui étaient à dire Neymar, Messi, marche sur l'institution et tout ça, Dembélé, il a eu un problème, il a été mis à l'écart.
Moi, j'étais d'accord, on a tous été d'accord quand Luis Enrique a mis Ousmane Dembélé sur le côté.
Peut-être
quand
la raison, elle a été donnée. Il est performant comme ça, peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qui lui a servi, ça a été le déclic qu'il a fait.
Mais moi, je pense que ce Paris Saint-Germain, le résultat de ce Paris Saint-Germain, c'est plus une victoire de Luis Enrique. Parce qu'il a toujours cru en son projet.
Ouais,
beaucoup l'ont critiqué, beaucoup de personnes n'ont pas cru en lui.
Mais il a eu la confiance, justement.
Il a eu la confiance de Nasser. Et de toute façon, il faut le voir l'année dernière, qui voyait le Paris Saint-Germain, même déjà l'année dernière, arriver jusqu'en demi-finale. Mmh. Et ils l'ont fait. Et bon, se faire sortir par Dortmund de cette manière, c'est un peu dégoûtant. Surtout quand tu vois toutes les occasions qu'ils ont pu rater, les poteaux, etc. Et là, cette année encore, ils ont la possibilité d'arriver encore en demi-finale pour la deuxième saison de suite. Ils ont la possibilité, encore une fois, je le dis. Et franchement, moi, pour moi, tout ça, c'est Luis Enrique. Parce que depuis que. Avant Luis Enrique, est-ce qu'il y a eu un coach qui a eu les pouvoirs qu'il a eu? Est-ce que l'influence qu'il a eu?
Oui, c'est aussi, ça joue beaucoup.
Il y en a un qui a essayé de les avoir et qui n'a pas réussi. C'est,
je crois que c'est Thomas
Tuchel. C'est Thomas Tuchel qui a essayé, qui les a eu au début, puis après, ça.
Après, c'était plus avec Leonardo. La relation était mauvaise avec Leonardo.
Et puis, il avait Neymar, il avait Mbappé dans son effectif. C'était compliqué.
Une honte de son licenciement a été une honte.
Après, moi, je rejoins ce que tu as dit. Pour moi, c'est le meilleur PSG de l'histoire. N'ayant pas peur de le dire. Au-delà des stats, juste en regardant.
Mais c'est ça, c'est que tu prends du plaisir en regardant.
C'est même pas en regardant les stats, même en regardant les matchs et en voyant.
Nos amis, comme tu dis, nos amis, là, je parlais tous, certains médias, c'était. Moi, je pense que c'est un manque d'irrespect. Là, c'est même pas est-ce que d'après vous, ses parents, c'était dans une conversation comme ça. Bon, donc ils ont gagné, ils ont ça, oui. Bon, on est bien d'accord. Hein. C'est quand même le pire PSG sous l'ère des Qataris. Quoi. C'était exactement ça, les...
Bah, sur le papier, quand tu le vois,
c'est individuellement. Enfin, c'est peut-être le PSG qui a le moins de très forte individualité. Quand je veux dire par là, en début de saison.
Bah là, t'en as plein qui se sont relevés pendant la saison.
Pour être ballon d'or. Alors donc, ça veut dire que c'est quand même une.
Après,
une...
attention, au semaine d'Amélie, personne ne.
Non, mais on en parle. Je veux dire, jamais. Avant, il y a deux mois là, est-ce que
non, tu dis pas. Tu dis pas.
Même, il sera peut-être cinquième ou il sera peut-être, je ne sais pas ce qu'il sera. Malgré... Je ne sais pas. Mais même pas son nom est circulé quand on parlait qui peut être ballon d'or ou qui peut ça. Même pas son nom est circulé. Maintenant, son nom, il commence à circuler, quoi. Donc,
oui, mais malgré malgré qu'ils aient essayé de louper et tout ce qui en suit, on a toujours vu Ousmane Dembélé comme un potentiel ballon d'or. C'est juste que maintenant, il le confirme grâce à tous les buts qu'il marque. Et les buts, c'est pas des buts, c'est vraiment des buts décisifs et il les met au fond. Et là, il est plus clinique devant le but. Donc là, automatiquement, son talent plus les buts, c'est sûr que le gars derrière, il mérite d'avoir potentiellement un ballon d'or s'il continue comme ça jusqu'à la fin de la saison, en tout cas.
Merci Salson. On va juste poursuivre avec la Ligue 1, bien évidemment. Nice qui se sont inclinés à domicile 2-1 face à Nantes. Nice qui réalise une mauvaise performance et qui enchaîne tout simplement une contre-performance. Et ça leur coûte la place dans le top 4 et qui se retrouvent à égalité de points avec Lille qui se sont inclinés aussi au Groupama Stadium 2-1 face à Lyon qui reviennent dans le top 5. Monaco se sont inclinés à Brest 2-1 aussi et laissent encore filer des points et aussi laissent filer la place de Dauphin au détriment des Marseillais qui se sont imposés 3-2 face à Toulouse à domicile. Quelles sont vos réactions parmi ces matchs-là en tout cas et surtout à retenir que Monaco, Nice et Lille ont réalisé les trois mauvaises opérations de la journée et ceux qui ont réalisé les bonnes opérations bien évidemment c'est Marseille et
Strasbourg aussi
qui se rapproche aussi des places européennes, mais il y a aussi surtout Lyon qui ont renversé Lille et qui se sont imposés 2-1. Stéphane.
Là, on revient juste à ce que disait tout à l'heure Alexandre, c'est-à-dire que c'est la faiblesse et le regret qu'on a par rapport à ce championnat de Ligue 1. Donc, c'est-à-dire des équipes qui sont pas capables d'assumer leurs ambitions. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure. Je crois que je l'ai dit dans l'émission de Philippe juste avant, la défaite de Nice, pour moi, c'est une excellente nouvelle, c'est une super nouvelle et j'espère qu'ils vont encore perdre des matchs. Parce qu'après ce qu'ils nous ont fait cette année en Coupe d'Europe,
c'est honteux.
Qui ne terminent plus dans les 6 ou 7 premiers, qui laissent les autres à leur place. Qui vont avoir faim, qui vont avoir envie de jouer des matchs de Coupe d'Europe. Et c'était honteux. Je dirais c'est le karma. De toute façon, ils n'ont plus de spectateurs dans leur stade, ils gagnent plus les matchs. Pourtant, l'équipe en elle-même, quand elle est au complet et quand elle joue, c'est pas l'équipe de Nice qui joue la moins bien de ces dernières années. Par rapport à la saison dernière ou par rapport à la... Bien sûr, alors, je parle pas de l'époque Galtier, mais c'est une équipe de Nice qui joue... Francaise, il a des principes de jeu qui sont assez intéressants quand même. Mais voilà, c'est le karma. Et c'est fou, quoi. Et comme je disais, la seule équipe, Lyon fait une bonne opération, mais la grosse, grosse équipe de 2025, c'est Strasbourg, quoi. C'est une grosse équipe, quoi. Ils sont à 3 points derrière le Paris Saint-Germain sur les...
matchs en 2025.
Ouais, voilà, ouais. Donc c'est impressionnant, hein, ce qu'ils ont fait à Reims. À Reims, c'était beau aussi, hein, s'ils n'ont pas été non plus énormissimes, quoi.
Ouais, et même s'il y a eu aussi pas mal de faits de jeu.
Ouais, il y a eu pas mal de faits de jeu, mais avant ces faits de jeu, ils ont aussi eu des grosses occasions des grosses occasions, quoi, notamment avant le fait de jeu de la dernière minute, hein, de la dernière minute,
ouais. Mais dès le début, par exemple, on pense au but de Ito refusé, ouais, justement, parce que soit il est refusé, soit il y a pénalty, c'est loin, c'est soit l'un,
non,
soit
l'autre.
Non,
moi je partage pas ton avis là-dessus, je ne pense pas avoir la science infuse, mais je me suis fait ma propre opinion, et puis après j'ai pas mal écouté tout ce qui se disait à droite à gauche, hein. Et il juge pas la main du défenseur.
On rappelle l'action pour nos chers auditeurs. Tout simplement, Ito qui s'emmenait le ballon et une main strasbourgeoise d'un défenseur strasbourgeois la remet en jeu. Et quand il remet le ballon en jeu, cette balle repart sur la main de Ito. Ito la récupère derrière et tire et marque.
Et c'est vrai que si jamais il n'y avait
pas la main,
il n'y a jamais celle de Ito.
Et derrière, il y a
but.
Peut-être
que le ballon, il passe. Peut-être que le ballon, il passe.
Oui, mais maintenant... peut-être qu'il l'a aussi.
Ouais, non, mais bien sûr.
On voyait comment elle était.
Tout à fait. Après, la loi du jeu dit... En fait, en gros, le problème, il est simple. La loi du jeu dit main d'un attaquant dans la surface de réparation, automatiquement, quoi qu'il arrive, elle est sifflée, le but est annulé. Après, l'autre loi, c'est main dans un défenseur dans la surface de réparation... Elle est analysée pour savoir si... Alors après, il y a plein de critères. Extension de la surface
joueur. Et tout ça, de toute façon, c'est à l'appréciation de l'arbitre.
Voilà, exactement.
Voilà, là, il y a un autre arbitre qu'aurait pu le siffler.
Ouais, exactement.
Très bien le siffler.
Moi, d'un point de vue personnel, j'ai plutôt pensé, quand ils ont été voir la VAR, je regardais le match, qu'il allait avoir main sûre et certain, quoi. Je voyais plutôt le pénalty. D'ailleurs, je trouvais ça un peu incroyable. Je veux dire, en fait... C'est un but d'un Rémois, mais ils vont annuler le but, mais ils vont donner pénalty. Ils ne l'ont pas donné parce qu'ils ont pensé que, je ne sais pas, où il bougeait, où il ne peut pas, gérer, il ne fait pas, machin. Comme tu dis, c'est l'appréciation de l'arbitre, ils ont pensé ça. Donc ils ne l'ont pas donné, mais c'est vrai que c'est des sacrés faits de jeu. Après ce fait de jeu-là, il y a quand même eu des grosses occasions strasbourgeoises qui vraiment peuvent s'en... Un poteau de Emega, notamment, là, que je voyais vraiment... même s'il ne se rate pas, d'autres, des face-à-face et tout, ça a été très, très chaud jusqu'après la dernière minute où on se demande franchement ce que fait l'arrière argentin de Strasbourg qui a été très bon dans tout le match. Mais quand il a fait ça, moi je me suis dit là aussi il va y avoir pénalty, pourquoi il fait ça, quoi. Et bref, bon, après effectivement c'est encore une fois l'appréciation de l'arbitre.
C'était une appréciation en tout cas assez,
mais ça fait rire quand vous entendez Caillot qui dit je trouve ça fou qu'il critique, moi juste je le comprends, mais qu'il dénonce la VAR et qu'il dit, et en plus il a même pas appelé la VAR. C'est-à-dire, le mec, ça fait combien d'années qu'on a la VAR en France? C'est 2-3 ans?
Non, il dit que la VAR ne l'a pas appelé.
Non, lui il dit il a même pas appelé la VAR.
D'accord, bah peut-être qu'il s'est trompé parce qu'il a critiqué la VAR en disant VAR, il s'était sûrement comme dans la pub en train de manger des hamburgers. Du coup, il critique
parce
la VAR,
que la
il
VAR,
critique pas l'arbitre
voilà.
Au milieu
mais
de ce
à un moment, il n'a pas trop critiqué Turpin, mais effectivement, je crois qu'à un moment donné,
il s'est juste trompé dans la formulation.
Je sais plus où j'ai entendu cette appréciation ou quoi, j'ai entendu son interview, ouais, peut-être il se trompe, mais il dit effectivement le pire. C'est que il a même pas appelé la VAR pour vérifier. Et la personne en face a dit, mais on n'appelle pas la VAR sur tous les buts ou toutes les occasions litigieuses. C'est la VAR qui regarde. Maintenant, après, on rentre dans son analyse, effectivement.
Où on comprend.
Il a été au McDo parce qu'il n'a pas vu et tout ça. Ouais. Il a pas tort, mais je pense que il y a peut-être pas non plus, il part en arrière, en avant, quoi. C'est
franchement
un peu délicat.
Non. Bon, après, c'est mon point de vue, hein, mais sur les deux actions, quand même, il y a litige et deux actions comme ça dans un match. Franchement, tes supporters de cette équipe, je pense qu'à la fin du match, t'as bien les boules parce qu'on a vu l'action où le joueur se désintéresse totalement du ballon et le pousse en arrière.
Oui.
Et ça, on a vu des pénaltys sifflés pour moins que ça en Ligue 1.
Je suis arbitre, mais je ne suis pas arbitre. Je n'ai absolument pas la compétence. C'est clair que moi, je suis arbitre, je siffle deux pénaltys pour les deux pénaltys,
au moins un sur deux. Ouais. Comme il y a de la compensation, il y a pas mal de compensation, en tout cas en Ligue 1.
Mais c'est sûr que c'est pas de...
On y pense.
Mais j'en suis ravi, parce que j'adore cette équipe de Strasbourg qui est exceptionnelle à voir jouer, qui est géniale et tout. Donc, eux, par contre, je serais content qu'ils aillent... ces gamins-là, je serais content qu'ils aillent jouer en Coupe d'Europe l'année prochaine.
Mais bon, attention, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent s'en aller aussi du côté de Chelsea avec le double propriétaire. Voilà, en tout cas, Salson, toi, tu peux nous dire ce que tu en penses de ces matchs.
Qu'est-ce que j'en pense ? Qu'il y a des équipes qui ne profitent pas des résultats des uns et des autres. Donc, la Ligue 1 continue à être passionnante. Parce que, en tout cas, moi, je te rejoins pour le GC Nice. Moi, je te rejoins. Si c'est pour nous faire
personne ne va les regretter. Hein,
ouais, si c'est pour se qualifier en Coupe d'Europe et nous refaire ce qu'ils ont fait en Ligue Europa, franchement, autant rester. Autant laisser la place aux autres. Après, voilà, une équipe comme Strasbourg aussi, je sais pas, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que les équipes comme ça, en général, ils perdent tous leurs joueurs l'été. Hein, parce qu'il y a pas mal de joueurs en prêt, si je ne dis pas de bêtises. Et même au-delà de ça, il y a plein de joueurs dans ces effectifs qui peuvent potentiellement partir. Donc, on va voir ce que ça va donner sur les prochaines journées. Donc, surtout sur les places européennes. C'est surtout sur les places européennes. Mais vraiment, c'est dommage pour certaines équipes de ne pas avoir profité, comme l'AS Monaco qui sont inclinées.
Merci, Salson. Alexandre ?
Ouais, moi, rapidement, c'est sûr. Je voulais surtout parler justement de l'AS Monaco. Moi, en fait, c'est une équipe qui me fatigue, l'AS Monaco. En fait. Non, mais franchement, c'est agaçant. Pourtant, je l'ai dit plusieurs fois que je voulais arrêter d'en parler de cette équipe, mais en fait. En fait, elle est tellement frustrante, je comprends pas. À chaque début de saison, ils arrivent à faire, on va dire, un effectif qui est plutôt cohérent pour au moins se bagarrer dans les 3-4 premières places. Ils font souvent un bon début de saison. C'est une équipe qui... là, je parle dans l'historique des dernières années. Hein. C'est une équipe qui, offensivement, est plutôt bonne, etc. Et au final, à chaque fois, ils finissent par décevoir. En fait, ils perdent des matchs là où ils doivent pas les perdre. Ils perdent des points là où ils doivent pas les perdre. Je prends pas forcément ce match-là pour exemple, parce que c'est vrai que Brest, c'est une belle équipe. C'est pas un scandale non plus de perdre à Brest. Mais en fait, ce qui est frustrant, c'est tous les points qu'ils laissent, que ce soit à domicile. Cette équipe, elle me fatigue en fait. Et c'est surtout dans l'attitude des joueurs où t'as vraiment l'impression qu'ils ont pas envie d'être là et qu'ils pensent surtout à se servir l'AS Monaco comme un tremplin, comme la plupart des clubs de Ligue 1, j'ai envie de vous dire, mais surtout ce club-là, il est tellement particulier parce qu'en fait, t'es là-bas, t'es peinard, t'as pas de pression, personne parle de toi en bien ou en mal, tout le monde s'en fiche. Et moi, au bout d'un moment, ça m'énerve parce que quand je commence le championnat de Ligue 1, je me dis l'AS Monaco, ça doit être un club qui doit rivaliser avec Paris, Lyon, parce qu'on parle souvent du PLM, mais pour moi, Monaco doit rivaliser avec ces équipes-là.
Ça fait un moment qu'ils n'ont pas titillé le PSG correctement.
En début de saison, comme tu dis, au début de saison-là...
Ils nous séduisent.
Au début de saison, c'est le deuxième meilleur effectif de Ligue 1.
Mais bien sûr, et ils nous séduisent dans la manière de jouer. On a beaucoup parlé, et à juste titre, de Ben Seguir, Akliouche, de même Vanderson et de Singo aussi, qui avait fait un bon début de saison, etc. Et après, il y a eu le retour de Zakaria aussi, qui a été bénéfique, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, termine la saison, tu te dis ok, bon, on laisse Monaco une saison de plus où ils ont déçu, où ils se font rien, où le club il compte les mois sans que rien ne se passe, il va vendre des joueurs, ils vont recruter des joueurs de Suisse.
Après, c'est un peu la politique de ce club là, ça fait un petit moment, donc moi je suis pas vraiment étonné pour ce qu'ils font. Après,
moi je suis pas étonné, je suis juste énervé en fait. Parce que quand t'as un club qui a une telle histoire déjà et qui a des moyens financiers comme l'AS Monaco Même, c'est un club qui peut attirer, je veux dire, fiscalement, c'est intéressant pour les joueurs, etc., etc. C'est une belle ville. Je me dis, tu te dois d'attendre mieux de Monaco.
Oui, parce que toi, t'es encore nostalgique de l'époque des Falcao.
Bien sûr.
Parce que c'est la seule saison où ils ont vraiment pris le titre en Ligue 1, tu vois. C'est à ce moment-là, ça a été...
Les
champions sont allés loin, l'épopée, t'as plein de joueurs français dans l'équipe.
En fait, là, je vais encore plus loin, mais souviens-toi quand ils sont en Ligue 2 et qu'il y a le.
Ranieri.
Quand il y a Ranieri et qu'il y a surtout le gros projet de l'oligarque russe là, qui vient et tout.
Après,
t'es excité, tu te dis ça va être incroyable. Pendant des années, ils vont rivaliser. Ensuite, ils gagnent le titre, ils forment des joueurs. T'as une osmose qui se crée. Des fois, ils vont en Coupe d'Europe, ils font des beaux parcours. Et au final, en fait, là, en Ligue 1, ils font n'importe quoi.
Surtout qu'ils revendent tous leurs joueurs à chaque fois, dès qu'ils ont des pépites. Ils revendent Ben Seguir, Akliouche, ils vont pas tarder à partir.
Ça, ouais, non, mais j'ai compris leur mode de fonctionnement, mais je suis juste.
Quand tu regardes le projet, t'as pas de joueur qui reste sur un long terme, ou tu vois, t'as pas de.
Bien sûr.
Enfin, les joueurs, ils font quoi? Une, deux saisons, ils partent, tu vois. Ils ont, à un moment, ils avaient recruté tous les prospects français, entre parenthèses, à un moment. Ils avaient récupéré pas mal de joueurs, Saint-Maximin et tous les joueurs. Ils avaient récupéré, ils les avaient envoyés en prêt un peu à gauche, à droite, mais ils les ont jamais récupérés ou relancés ou autre. J'ai l'impression que c'est plus un club business, tu vois, c'est comme l'FC Porto à l'époque.
Je trouve ça tellement dommage.
Ça a un peu changé quand même, ça a un peu changé depuis
parce qu'ils ont plus de joueurs.
Depuis deux ans déjà, là, par exemple, ils ont prolongé leur coach assez tôt, et ils ont un peu changé quand même. Les deux, trois derniers mercato, ils ont un peu changé. Moi, je me rappelle de certains mercato, il y a 4-5 ans, où tu avais 7-8 mecs alignés là, avec Monaco derrière, où ils faisaient la photo et tout. Tu avais toutes les recrues et tout. C'était pareil, c'était plein de joueurs qui avaient entre 18 et 22 ans, qui étaient recrutés et tout. Et là, par exemple, c'est à l'image un peu du recrutement de Biret, là, le recrutement qui a été fait cet hiver. Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt judicieux, ce recrutement.
Et c'est pour ça. C'est que tu t'es dit que...
Ils ont cherché maintenant, effectivement. Après, comme tu l'as dit, je pense que tu as raison, c'est que ça reste pas forcément chez les joueurs, ça reste un club qui est pas bien géré, ni niveau
en fait, direction. Ils ont aucune exigence.
Ils sont pas exigeants, ils sont pas ambitieux. C'est juste comme ça que je les vois.
Ça fait
c'est
10 plus... ans que tu dis qu'ils n'ont pas de gardien de but, par exemple. Ils n'ont pas un gardien de but au niveau
C'est depuis le Croate, là, gardien Subotic. Ouais. C'est depuis Subotic qu'ils ne sont pas
arrivés. Et encore, Subotic, c'était pas... C'était
quand même...
Il a fait quelques boulettes, mais ça restait... Il a fait des petites cagades, mais en vrai, ça va, c'est un gardien. C'est un bon gardien.
Je suis d'accord que ça a été le meilleur, mais après, regarde la liste des gardiens qu'il y a eu, quoi.
Après moi, dites-moi, à part la saison, comme je vous ai dit tout à l'heure, je crois que c'était à l'époque où Mbappé...
Non, mais là, si tu veux, il y en a deux. Là, comme ça, je peux t'en citer deux. Il y a 2015 et 2017.
Ouais,
et
là, en vrai, ils sont là depuis quand, les Russes, là? Ils sont là depuis 2012, je crois, comme ça.
Un an après le Qatar, ils ont terminé deuxième.
Donc ça fait plus une dizaine d'années.
Ils terminent deuxième. En fait, tu te dis, il y a tout pour.
Ouais, mais ils font rien. Quand tu te bases sur les 10 ans, tu peux pas te dire, tu peux pas t'attendre à ce que Monaco ait titulé le Paris Saint-Germain quand tu vois les précédents résultats. Moi, je me bats sur ça.
Ah, moi, je suis parce que pas je la d'accord. Vois, moi, je ils la vois. Ont un bon centre de formation.
Pour moi, ils avaient l'un des meilleurs centres de formation parce que là, ils n'ont plus sorti de joueurs depuis
un petit moment. À une période,
ils avaient sorti pas mal de bons joueurs. Ouais. Même en centre de formation, était réputé pour ça. Mais je ne vois pas Monaco. Moi, je les vois comme cette année, casser les bonbons un peu toutes les équipes et se placer toujours dans les top 3 et voire top 4.
Merci Salson. On va juste poursuivre. Hein. Je rappelle le classement de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain va champion avec 74 points. Marseille, deuxième avec 52 points. Monaco, troisième avec 50 points. Strasbourg, quatrième avec 49 points. Lyon, cinquième avec 48 points. Nice, sixième avec 47. À égalité avec Lille, 47. De la septième place à la deuxième place, tout peut changer en deux journées. Hein, ça va très, très vite. Voilà. Pour le bas de tableau aussi, Reims qui sont barragistes suite à leur défaite face à Strasbourg. Saint-Etienne, 17e avec 23 points. Attention à Saint-Etienne. Montpellier, les carottes sont presque cuites. Avec 15 points et dernier, hein, tout simplement, qui ont encore perdu ce week-end face au Havre.
Gassé licencié. 2-0. Oui. Gassé a été licencié.
Et Gassé, oui, il disait de toute façon que ça allait être son dernier match aussi. Voilà.
Je pense que pour une fois, la formule d'un commun accord, elle est parfaitement applicable à son départ.
Merci en tout cas. On va enchaîner très rapidement avec la Coupe de France. Hein, on va le mettre dedans. Très rapidement, si vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de la Coupe de France en deux phrases, hein, très rapidement. On va passer à la suite. Le Paris Saint-Germain malmené face à une belle équipe de Dunkerque, mais qui renverse quand même le match grâce à un doublé de Ousmane Dembélé, hein, qui permet aux Parisiens d'aller défendre leur titre en finale face à Reims, qui se sont imposés 2-1 face aux Canois. Stéphane ?
Ben moi je le disais tout à l'heure, hein, je personnellement suis pas d'accord pour dire une belle équipe de Dunkerque. J'ai vu une équipe de Dunkerque qui a 11 derrière, qui a été pas mal mis en avant, des grosses erreurs du Paris Saint-Germain qui leur a valu de prendre des buts, et puis quand ils ont décidé de jouer enfin de jouer, ben c'est passé. Ben, j'étais je vais dire quelque chose, là, j'étais presque content quand Dunkerque a ouvert le score. Je me suis dit, ah tiens, au moins je vais voir un match, je vais pas me faire chier. Ou ils vont pas gagner 5-0 le Paris Saint-Germain, un truc comme ça. J'étais presque content. Après, Cannes-Reims, c'est un peu pareil, quand une équipe de Ligue 1 qui a pas vraiment joué, en fait, quoi, qui a pas joué à Cannes, quoi, qui joue contre une National 2, mais bon, ils ont réussi, ils vont en finale. Donc, j'ai pas trouvé que c'était des. Enfin, si, il y a eu du jeu pour le Paris Saint-Germain, il y a eu beaucoup de buts, il y a eu 6 buts, mais j'ai pas trouvé qu'ils étaient si bon que ça. Pour moi, ça confirme, on va voir, là, je sais pas ce qui va se passer ce soir. En ce moment, il y a Dunkerque-Guingamp, je crois, en Ligue 2. J'ai trouvé surtout qu'ils étaient très, très fatigués, très en dessous de leur performance du début de saison et de même jusqu'à là. Ça fait maintenant longtemps, ça fait un an et demi maintenant entre le sauvetage l'année dernière de Dunkerque et la saison là. Et Dunkerque, ils accusent vraiment le coup. Alors j'espère pour eux qu'ils vont trouver la force de d'aller au bout, au moins d'être dans le top 5, voire top 4, puisque là ils recevaient Guingamp ce soir. Donc si jamais ils arrivent. Mais okay. Je n'ai pas été soufflé.
Ok, merci Stéphane. Selsen.
Ouais, les logiques ont été respectées. Voilà, les clubs de Ligue 1 se sont qualifiés dans la logique. Et donc voilà, le Paris Saint-Germain, même à 2-0, je savais que le Paris Saint-Germain allait renverser la tendance et que Reims allait battre la ISCON, ce qui est, on va dire, voilà, logique, tout simplement. Donc ça fait une finale Reims contre le Paris Saint-Germain.
Favori ?
Paris Saint-Germain.
Évidemment. Merci, Selsen. Alexandre ?
Ouais, non, rien de spécial à rajouter. Hein. Franchement, Paris va gagner la coupe et ce sera mérité. Et puis voilà. Hein.
Okay. Merci, Alexandre. On va faire une petite virgule avant de revenir avec la Première Ligue. Hein, la Première Ligue, le derby mancunien se termine sur un score vierge, 0-0 entre Manchester City et Manchester United. Manchester City, cinquième, hein, mais reste au coude à goutte avec Chelsea qui ont joué face à Brentford et qui se sont quittés dos à dos sur le même score, bien évidemment. On y revient de suite. Liverpool ont perdu face à Fulham 3-2 et devront patienter encore pour se rapprocher encore du titre, même si on sait que c'est qu'une question de temps, puisque Arsenal, de l'autre côté, ont fait match nul contre Everton 1-1. Arsenal qui ont du mal à mettre la pression, en tout cas, sur les Reds. Ce qui font que ça avance petit à petit. Mais voilà, Nottingham Forest qui ont perdu à Aston Villa. Hein. Du coup, Aston Villa qui se redonne des chances aussi de croire en la Ligue des Champions, une qualification en Ligue des Champions. Messieurs, quelles sont vos impressions sur cette journée de Première Ligue, Stéphane ?
Bah, cette journée de Première Ligue, bon, pour moi, elle se rapproche un peu de beaucoup de championnats, ce qui est passé. C'est-à-dire que les équipes s'essoufflent un petit peu, hein, ont du mal. On a vu... Liverpool qui perd, Manchester City qui fait un nul, bon, ils sont plus une équipe, plus dans les équipes de tête. Arsenal qui fait un nul, c'est un peu Chelsea qui fait un nul, c'est un peu compliqué. Il y a Aston Villa qui revient bien, mais bon, voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais on retrouve un petit peu ce que tu disais, Alexandre, pour la Ligue 1, quoi. C'est-à-dire que même si Liverpool fait une énorme saison...
Ouais, cette saison, elle est un peu moins bien en Première Ligue, c'est vrai. Ouais.
Et... Il y a quand même, on sait, comme l'a dit Elad, on sait qu'ils vont être champions, mais derrière, il n'y a pas trop de d'adversité. Parce que là, ils ont fait match nul hier, les Gunners, mais ce n'est pas la première fois qu'ils font un match nul ou un mauvais match. À un moment, peut-être, où Liverpool a fait un nul, où ils pourraient se rapprocher et tout. Ils ont quand même perdu énormément de points, quoi. Ils font un match nul à Everton, c'est ça, non ?
C'est ça, face à Everton.
Et Everton, ils ne jouent pas le maintien, ils sont dans le bas de tableau, hein. Ouais. Donc voilà, ils vont faire un match nul contre une équipe qui joue le maintien, alors que bon, de toute façon, ça aurait été.
Ouais, de toute façon, la première ligue, elle est pas. Je te rejoins parce que la ligue, enfin la première ligue, on est limite un peu pliée, ça fait un moment, et t'as pas l'impression que derrière t'as Arsenal ou Nottingham qui va aller se rapprocher de Liverpool malgré que Liverpool fasse des faux pas. Y a pas de suspense. Regarde, bah, Liverpool fait un faux pas, Arsenal fait un faux pas, que Liverpool gagne ou gagne pas. Ouais,
okay. Excuse-moi, après je pense qu'on a les trois derniers, on les a bien qui sont décrochés. Ipswich, Leicester, Southampton, qui ont 20, 17, 10, qui est à 12 points de Wolverhampton. Il reste 7 journées.
Tu as les Leicester qui perdent, qui sont en train de perdre 2-0 contre Newcastle, et c'est même pas la 30e minute.
Newcastle qui sont en train de passer devant Manchester City d'ailleurs. Manchester City qui se retrouve 6e.
Ah, mais s'ils font pas attention, t'as Aston Villa qui va pas tarder à passer devant eux.
Il y a une équipe mystère voilà. un peu. Bon,
hein. Le seul mystère là, pour moi dans cette première ligue, c'est savoir si City va se qualifier en Coupe d'Europe. C'est juste ça le suspense de ce.
Ce serait quand même bien pour le foot européen que City y soit. Hein.
Mais bon, si ils ont pas le niveau.
Et les clubs anglais, on peut leur faire confiance. Ils vont pas nous faire une.
Si à la rigueur, ils passent pas, t'as Aston Villa qui passe devant eux. Je pense pas qu'Aston Villa est moins méritant.
Même avant Aston Villa, en fait, là, t'as déjà les 4 qui sont bien remplis. T'as Liverpool en premier, t'as Arsenal en deuxième, t'as Nottingham Forest.
Surprise.
Je pense qu'ils vont y aller fortement. Qu'ils sont à 57 points quand même, à 4 points de plus que Chelsea. Et ça va jouer, je pense, la 4ème place entre Chelsea, Newcastle, Manchester City et Aston Villa. Donc, dans les 4, je pense que ça sera mérité dans les 4 cas, quoi.
Bah, le plaisir, c'est Nottingham Forest aussi.
Ouais,
Nottingham Forest qui fait une très très grosse saison. Ouais. Et là où je vous rejoins tous les deux, c'est que. Arsenal, c'est une équipe qui déçoit, en fait. Et je me dis, en fait, moi, je suis supporter d'Arsenal, je suis très triste. Vraiment, je suis très triste parce que, à chaque fois, comme tu as dit Stéphane, à chaque fois que Liverpool fait un faux pas.
Dans la saison, il y a eu plusieurs fois comme ça.
Ouais, et souvent, en plus, Arsenal jouait après Liverpool. Après, bon, on ne dit pas que c'est facile de gagner les matchs en Première Ligue, bien sûr, mais ils perdent des points assez bêtes. Et je me dis que sans ces points perdus, bah, au moins, ça aurait donné une course au titre alléchante. Et par contre, là où je suis moins d'accord avec toi, c'est que Stéphane, c'est que City, personnellement, s'ils ne se qualifient pas pour la Coupe d'Europe, ça ne me dérange pas plus que ça. Parce que vu leur niveau de jeu actuel, je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais je pense que, à mon avis, il leur faudra plus d'une saison pour retrouver un haut standing européen. Donc, surtout que, enfin, je sais pas,
il y a tout à refaire.
Mais sachant qu'il y a des Guardiola, il y a des départs, De Bruyne qui est annoncé. Bernardo Silva qui est en fin de course, Grealish, on va pas refaire tout l'effectif, mais je veux dire.
En tout cas, il y a des rumeurs par rapport à ces trois joueurs que tu viens de citer qui quitteront à la fin de saison. Du coup, il faudra reconstruire.
C'est ça.
Après,
il y a Rodri qui va revenir de blessure aussi.
Guardiola, il sait bien le faire.
Je sais pas, parce que Guardiola, justement, peut-être qu'il lui faut du temps, il va injecter beaucoup d'argent. En tout cas, moi, là, City, ils sont là, ils doivent être. Ils sont 6e de Première Ligue.
Vu la saison
qu'ils font, vu le jeu qu'ils proposent.
Et je sais pas si on va parler du derby. Moi, j'aime beaucoup cette équipe, j'aimerais bien les
voir. Oui, mais bien sûr, elle nous a beaucoup procuré d'émotions.
En Ligue des Champions la saison prochaine, je pense que ça fait partie des gros
historiquement parlant, si Nottingham est là, ça me dérange
pas. C'est une équipe très riche qui va certainement beaucoup investir pour remplacer les joueurs qui partent. C'est très bien qu'il y a un joueur comme Kevin De Bruyne, donc je pense que tout le monde est d'accord pour dire.
Non, mais là, il faisait une saison, c'était la saison de trop.
Même l'année dernière, c'était juste.
Et qu'il avait plus sa place, en tout cas dans une équipe top tableau en Première Ligue. Donc c'est très bien de le savoir à l'avance et puis de penser à le remplacer et tout ça. Maintenant, on va voir comment ça va se passer.
Après, je prends là, c'est pas de savoir s'ils vont se qualifier, c'est de savoir comment ils vont se relancer. Parce que là,
si c'est pour
se qualifier en Ligue des Champions, on se ridiculise encore une fois.
Moi,
je pense que même se qualifier, c'est même pas sûr qu'ils aillent en Europe. Hein. C'est
juste avant de fermer cette page Première Ligue, c'est surtout. Là, j'ai un maillot de Manchester United sur moi. Est-ce qu'on va parler de Manchester United? Est-ce qu'on va parler de Tottenham? Franchement, ça, c'est des clubs, c'est incompréhensible. Et je ne sais pas si vous avez regardé le derby hier. Le derby de Manchester.
Le site de Manchester, non.
Ouais, je l'ai regardé et franchement.
J'ai pas pu le regarder.
Ah, franchement, heureusement pour vous, vous ne l'avez pas regardé.
Jamais regardé.
Le score reflète le match.
Ah là là, mais même au-delà de ça, franchement, moi, c'est ce que je disais il y a peut-être une ou deux semaines, c'est que. United, vu leur effectif et aussi le jeu qu'ils proposent, moi, en début de saison, tu me donnes toutes les fiches d'effectifs sans me mettre le nom des clubs, je me dis cette équipe-là, elle finit milieu de tableau et elle n'est même pas qualifiée en Coupe d'Europe. Parce que franchement, l'effectif qu'ils ont, il est extrêmement pauvre. Il sort Højlund, il fait rentrer Zirkzee. Bon, Zirkzee, il a fait une bonne rentrée, mais c'est compliqué. City, c'est compliqué.
Ah, c'est marrant, je pensais pas... la même chose. Je suis beaucoup moins un expert du foot anglais, mais
après,
il a été quand même pas mal.
Il
a fait en début de saison. Yoro, par exemple, c'est une super recrue. Quoi.
Franchement, Yoro, il s'est fébrile.
Parce qu'il n'a pas été bon. Mais moi, je te parle au mois de juillet de l'année dernière, quand il signe, quand tu dis qu'il va jouer à.
Il se blesse très rapidement aussi.
Tu te rends compte que là, ce que tu as dit hier, tout à l'heure, dans l'émission de Philippe, c'est que tu te rends compte que tu te dis, en fait, Lyon, Manchester United, Lyon est favori. Est-ce que tu te rends compte de ça?
Je suis d'accord avec toi.
La pauvreté et le niveau de Manchester United.
Ils sont à l'image de leur saison. Regarde, ils sont combien au classement.
Et moi, je suis d'accord avec ça. Lyon, pour moi, est favori.
Quand je te parlais juste, quand tu regardes les effectifs en début de saison, quand tu regardes l'effectif de Manchester United en début de saison, moi, j'aurais pas dit, j'aurais pas dit, mais encore une fois, je ne suis pas du tout un spécialiste du foot anglais, mais j'aurais pas dit.
C'est compliqué. Casemiro, c'est en bout de course. Martinez, il fait un match sur deux. Franchement, ils n'ont pas de leader de défense.
Après, c'est triste. Là, je pense, je sais pas si c'est peut-être depuis longtemps.
C'est
pas la pire saison de Manchester United là, en termes de résultats.
Si, là, ça fait au moins 10 ans qu'ils n'ont pas été comme ça.
Depuis que Ferguson est parti.
Si, là, c'est en termes de résultats, c'est la pire. Ça, c'est sûr.
Jamais mais là, c'est dans ce classement-là.
Une descente aux enfers. Et Tottenham, pareil. Tottenham, ils ont perdu Kane et on voit à quel point Kane, en fait, il était très, très important dans l'équipe. En fait. Donc, voilà.
Merci, messieurs, en tout cas, pour ces analyses. Hein. Il y a Abou et Philippe qui nous ont rejoints.
Désolé, salut.
Il a bien mangé, Philippe.
Ça va.
Maman vous a ramené des petits bouts quand même. Hein.
Ah oui, merci.
C'est gentil.
C'est gentil, Philippe. Du coup, on va se faire une petite pause avant de revenir sur la Liga et la Coupe du Roi. Hein. Il s'est passé des choses. En tout cas, on a pu voir la course folle.
Il y a des buts, en tout cas.
Il y a eu des buts, en tout cas. Il y a eu des buts, surtout en Coupe du Roi. Il y a eu des buts. Et on y revient juste après.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Montparis FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Maison Handball. Hein, et bien évidemment, on va parler de la Coupe du Roi. Le Real Madrid qui se sont fait peur, mais parvient tout de même à se qualifier pour la finale. Au bout des prolongations, hein, 4-4 face à Real Sociedad. Beaucoup de buts, hein, énormément de buts, comme on a pu le voir. Le Real Madrid qui iront tout simplement en finale et qui joueront, ça sera un classico en finale, on aura le droit à un classico. Hein. Après la contre-performance des Barcelonais au match aller, ils se sont rattrapés au match retour en gagnant 1-0 face à l'Atlético de Madrid. Attention, on a bien cru que Sorloth allait refaire le même coup, mais il y a eu hors-jeu et le Barça iront en finale et qui iront défier le Real Madrid de Kylian Mbappé. Quelles sont vos impressions sur cette Coupe du Roi, Philippe?
Il y a eu des buts au moins.
Il y a eu des buts.
Des matchs aller-retour, que ce soit le match avec l'Atlético puis le Barça au match aller, ou que ce soit ce match entre le match retour du Real, ça a été un match avec des buts. Donc au moins, ça a été spectaculaire. Ça va nous donner donc un nouveau classico, en attendant peut-être un autre après, qui sait.
On n'y est pas encore, mais
pourquoi pas.
On n'y est pas encore, mais bon. Voilà.
En tout cas, c'est une finale royale. Hein. Real Madrid, donc Barcelone, pour l'Espagne, c'est une finale royale. Ça rappelle certaines finales PSG-Marseille.
C'est samedi, non?
Au top. C'est 26 avril.
Il joue, excusez-moi mon ignorance, mais ça joue comment? C'est un seul match?
C'est un seul match. Alors là, ça se joue le match.
C'est l'Estadio de la Cartuja, je ne sais pas exactement où c'est. Ah, c'est à Séville, pardon, excuse-moi.
C'est à Séville, oui.
C'est le stade de Séville.
Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane? Qu'est-ce que t'en as pensé?
Je pense que ça va être... C'est les deux premiers de Liga, même s'ils ont souffert, les deux ont souffert. Je pense que peut-être l'Atlético de Madrid... c'est l'éternel problème, quoi. Est-ce que l'Atlético de Madrid va réussir à regagner quelque chose un jour en jouant comme ils jouent, quoi. Donc, même s'ils sont solides, je crois qu'ils sont voués à plus gagner, quoi. J'en ai un peu peur. Maintenant, après, heureusement quand même que Barcelone est passé contre le Real Madrid, ça va faire du spectacle, encore sûrement beaucoup de spectacle, et espérons beaucoup de buts. Mais normalement, ils sont favoris. Les Catalans sont largement favoris, je pense. Mais bon, sur un match, tout peut se passer. S'il y a une équipe qui peut les battre, peut-être sur une finale, c'est peut-être le Real Madrid. Donc ça va être super, non ? Ça va être bien. Je pense que ça va être bien. Maintenant, c'était très compliqué pour le Real Madrid. Hein. Ça va être très compliqué. Le match a été très compliqué. Mais quelque part, c'est de la coupe. Hein, donc, ils n'allaient pas. C'était Real Sociedad. Real Sociedad. Oui, c'était ça. Ils n'allaient pas. C'est des équipes qui ont de l'expérience et tout. Donc, c'est pas. Ils vendent chèrement leur peau. Quoi.
Merci, Stéphane. Abou, tu peux nous dire ce que tu en penses de la Coupe du Roi et de la qualification du Real Madrid et du Barcelone en finale de la Coupe du Roi, tout simplement, le 26 avril.
Bah, le Barça, c'est une qualification assez logique. Hein. Une équipe, c'est un match aller spectaculaire, match retour un peu moins. Après, c'est normal, c'est dur de faire deux matchs du même niveau, que ce soit pour l'une ou l'autre. Qualification logique pour le FC Barcelone. Pour le Real Madrid, match compliqué avec des joueurs défensifs qui étaient à la ramasse totale. Je pense notamment à David Alaba qui fait de la peine en ce moment. C'est triste de le voir à ce niveau-là. Eduardo Camavinga aussi qui a une saison très très compliquée cette saison. Après, il est jeune. Hein. Eduardo Camavinga, on l'oublie souvent, mais il n'a que 22 ans. Il est très très jeune. C'est en 2005, si je ne dis pas de bêtises.
Non. C'est en 2002.
Parce que 2025, moins 2005, ça ne fait pas 22 ans.
Il a quel âge?
C'est en 2002.
Je sais pas, parce que ça fait...
Il a 23 ans.
Ah, pour tout le chiffre, alors.
Il va avoir 23 ans. Il
a quel âge? 22.
Il va avoir 23.
Il
a 22.
Ouais, bon, il a 22.
Il a déjà 5 à 6 saisons déjà.
Ouais, c'est ça que je veux dire.
Ouais, mais ça reste quand même...
Non, mais quand je veux dire...
Ça fait 4 ans qu'il aurait, quand même.
Il est déjà chargé.
Il y a de la fatigue, je pense aussi.
Et
tu vois.
Tous les grands joueurs, ils ont connu des saisons comme ça, des traversées du désert.
Bah surtout quand joueurs. Surtout quand il ne joue pas à son poste. Ouais, parce qu'il a joué latéral.
C'est vrai qu'il est beaucoup mal joué.
Il joue latéral et latéral, ça n'est pas son poste.
C'est vrai qu'il n'est vraiment pas aidé par Ancelotti.
Il n'est pas aidé même par Ancelotti.
Surtout ça, en sachant que tu as des défenseurs centraux assez bancals par moment et que tu retrouves Tchouaméni aussi dans la défense centrale.
Mais le souci, c'est que même au milieu, il n'est pas bon cette saison, en fait. C'est qu'à force de le trimballer à gauche, à droite, il n'est pas bon dans son poste de prédilection, il n'est pas bon dans le poste où il a fait des merveilles pendant la Coupe du Monde.
C'est un peu compliqué pour lui cette saison.
Après,
ça arrive, ça
va revenir
comme ça. Je pense que c'est la fatigue, c'est l'accumulation des matchs. Depuis que la saison, il est dans le monde professionnel.
Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs, à part qu'il y a Mbappé, est-ce que tu as beaucoup de joueurs où tu vas dire, lui, il est bon cette saison?
Ah, parce que Mbappé, là, il est bon?
Du Real Madrid. Non, il n'est pas bon, il est excellent. Il est deuxième meilleur buteur de Liga.
Bon, Stéphane, je vais te poser une question.
Vas-y, dis-moi.
Sinon, il y a Valverde qui fait une très bonne saison.
Ça, c'est vrai. Sans parler de Mbappé. Mbappé, les matchs d'Mbappé, ça te satisfait?
Moi, personnellement, oui.
Tu le trouves bon dans les matchs?
Autant les autres années. Moi, je regarde simplement, je suis désolé, regardez ce que vous voulez. Les trois dernières victoires du Real Madrid, par exemple, c'est que grâce à des buts de Mbappé.
Mais s'il ne marque pas, là.
Quand t'es attaquant, il n'y a qu'un truc, c'est de marquer. C'est de marquer.
Oui, mais Stéphane, ça, c'est le monde public, mais nous, on connaît le football. On regarde le football. Et quand tu regardes un match 90 minutes, tu peux me sortir tout ce que tu veux. Si t'es exécrable pendant 90 minutes, moi, tu me piégeras avec un but. Hein.
La
finale de la Coupe du Monde, je ne l'ai pas oublié, les 70 minutes exécrables de l'équipe de France.
On n'a pas tous la même opinion pour ça. Moi, je vois quelque chose. Regarde les trois dernières victoires du Real Madrid. Je dis ça comme ça en l'air sans avoir vérifié vraiment précisément. Mais pour moi, les trois dernières matchs du Real Madrid, c'est des buts de Mbappé qui font gagner le Real Madrid. Quoi. Donc, il n'y a que ça. Et quand t'es attaquant, il n'y a que ça qui compte. Quoi. Parce que je veux dire, quand je dis à la limite, bon, on va dire, il est bon.
Je suis pas d'accord avec
toi. En fait, dans le jeu, il est exécrable.
Il y a une finale aussi contre le Barça où c'est lui qui te plombe, quoi.
Tu peux pas te baser.
Une saison compliquée. Mais sinon, après, va me dire, moi, bon, Valverde, je suis pas d'accord, mais c'est peut-être aussi, parce que moi, c'est un joueur que.
Pour moi, même le meilleur joueur du Real cette saison.
Si vous voulez, pour moi, c'est vraiment pas. Et encore une fois, les autres années, on pouvait parler. Là, cette année, comme il y a Kylian Mbappé, qui est un joueur que j'aime beaucoup. J'ai regardé
on comprend pourquoi maintenant
j'aime beaucoup Olivier Giroud, mais Olivier Giroud
c'est pas comparable.
Mais pour te dire
il fait de l'ironie hein, parce qu'il déteste
tu détestes Giroud en tant que joueur
comme joueur.
Tu peux pas connaître le football
Olivier Giroud, respectez cet homme.
Non mais ça me fait trop rire parce que c'est trop drôle de reprocher Mais c'est pas grave, c'est trop drôle de reprocher le manque d'apport de Kylian Mbappé dans le jeu.
Mais il a essayé, il apporte pas.
Et de répondre quand on dit Giroud.
Mais Giroud déjà a un jeu de tête.
Giroud, c'est le meilleur.
Même au-delà du jeu de tête, il a un jeu de pivot. C'est un pivot.
Tu peux pas dire que ce mec-là, il est pas bon, quoi. Tu peux pas dire ça.
Tu peux pas dire Giroud est mauvais non plus.
D'un coup, tu te sers de ses buts pour. Bon, bref, ça, c'est l'éternel.
Non, mais termine sur Mbappé. Sur le Real, c'est intéressant.
Moi, Mbappé, je trouve qu'il fait une bonne saison au Real. On aurait dit n'importe qui l'année dernière qui disait il aura pas sa place. Je vous en passe, même autour de cette.
Oui, je l'avais dit, c'est vrai, je pense.
Toi, je sais pas, mais je me rappelle surtout de Malik, par exemple, qui disait. L'ancien chroniqueur Malik, qui disait moi il aura peut-être pas sa place au Real Madrid et tout. Moi je vois que tout le monde à Madrid dit que Ancelotti doit confier les clés de l'équipe à Kylian Mbappé.
Quelle erreur de
il est
ça.
Deuxième meilleur buteur de Liga à 3 buts seulement de moins que Lewandowski et avec je crois 7 ou 8 buts d'avance sur le troisième meilleur buteur. Et je dis, au-delà de ça, bon ça c'est par exemple pour Mbappé, mais sinon à la limite, donc vous ne le mettez pas dedans, mais quel mois Valverde, je dirais qu'il n'a pas été nul, mais sinon, cite-moi des joueurs, à part Valverde, alors cite-moi des joueurs du Real Madrid. Peut-être Bellingham qui se reprend bien.
Ah, on ne va pas te citer.
Cite-moi des joueurs du Real Madrid.
Là, je peux citer. Moi, je vais demander
de me citer. Raúl Asensio qui fait une plutôt bonne saison.
Là, moi, je vais demander.
On a aussi ce truc où on se fixe sur les joueurs offensifs, mais défensivement, Raúl Asensio.
Il a combien de matchs ?
Je ne suis pas trop d'accord.
Moi non plus, je ne suis pas trop d'accord.
Il a une vingtaine de matchs, Raúl Asensio. Même pour moi, c'est pas une vingtaine de matchs. Il fait une plutôt bonne saison. Valverde, il joue pas à son poste latéral droit. Il remplace Varal à ce poste-là, il fait plutôt une même très bonne saison.
Il a joué 3 matchs à ce poste-là.
Brahim Diaz, quand il rentre,
regardez la titulaire, il est bon. Latéral droit.
Ah si.
Ah non.
Non, Stéphane. Franchement, il est vraiment beaucoup latéral droit.
C'est
Luis Suárez.
Déjà, souvent, dès que Modric est sur le terrain, Valverde, déjà, il est latéral droit, automatiquement. Dès que Modric rentre ou qu'il est titulaire, Valverde, il passe latéral droit parce qu'il y a un problème à ça. D'animation.
Sincèrement, je pense pas qu'il a joué beaucoup.
Excusez-moi, messieurs, on va juste se recentrer sur la Coupe du Roi. La Coupe du Roi, je pense que vous avez beaucoup parlé, mais on va basculer sur la Liga. La Liga, le Real Madrid qui s'incline à domicile face à Valence 2-1 avec un penalty loupé de Vinicius Junior pour la deuxième fois consécutive. Le Barça manque l'occasion de prendre 6 points d'avance en faisant match nul 1-1 face au Betis. L'Atlético de Madrid qui réalise la bonne opération de la journée en s'imposant à Séville 2-1 et reviennent à 7 points du Barça, leader, et à 3 points du Real Madrid. Atlético, vous voyez, en un match, ils reviennent un peu dans la course en sachant qu'Atlético n'ont que ça à jouer et que le Real et le Barça doivent encore s'affronter en Liga, ce qui peut donner des chances encore à l'Atlético de Madrid d'y croire. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il te plaît, Philippe?
En Espagne, ça a été un match à 3 régulièrement, constamment. À un moment, tantôt, ça a été le Barça qui a décroché un peu, puis ils sont remontés, et puis maintenant, c'est l'Atlético. Donc, effectivement, jusqu'au bout, ça peut être... Surtout qu'en Espagne, il reste quand même 8 ou 9 journées, quand même. Donc, il reste un peu plus de journées. On le disait, c'est peut-être le championnat le plus serré et le plus passionnant des 5 principaux championnats.
Avec l'Italie aussi.
Il reste 8 journées.
Avec l'Italie, oui, mais l'Italie, il y a un match à 2. Alors qu'il y avait un moment un match à 3.
Mais la Talenta a complètement lâché. Oui.
Et là maintenant c'est un match à 3. Donc tout est possible, on l'a dit, dans ce championnat, même si pour l'instant c'est plutôt favorable à Barcelone. Mais rien ne dit que.
Que si jamais l'Atlético de Madrid reprend 7 points en 8 matchs, Barcelone, franchement, alors là, j'y crois, mais pas une seule seconde.
Il faudrait qu'ils aient un coup de mou. Ils ont eu un coup
effectivement,
un
comme tu as dit, il y a Barcelone, il y a Barcelone-Real Madrid, mais je pense que moi, je vois Barcelone aller au bout. Encore une fois,
il y a une dynamique, là, quand même. C'est vrai.
Si le très mauvais Mbappé n'est pas là pour sauver le Real, ils auraient 5 points ou 6 points de moins. Ils seraient même pas dans, ils seraient peut-être même pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Quoi.
Ça fait Stéphane.
C'est la vérité. Ils seraient pas. T'enlèves les matchs, les buts qu'il a mis, qu'il aura fait gagner les matchs. Il serait même pas dans les 3 ou 4 premiers.
C'est vrai que l'année dernière aussi, ils attendaient Mbappé pour gagner la Ligue des Champions.
Non, mais au-delà de ça, t'as vu, je vais te poser une question.
C'est vrai qu'il n'y a pas eu un problème de Mbappé au sujet de Vinicius, etc.
Je vais te poser une question. Quand tu vois le Real Madrid sans Mbappé et le PSG sans Mbappé, tu peux me les décrire, s'il te plaît?
Ah non, mais je vois surtout, je vais te répondre. Tu sais ce que je vais te répondre? Je vais te voir un PSG avec Luis Enrique et un Real Madrid avec Carlo.
Il a pas totalement tort non plus.
En 4 ans de Ligue des Champions, Carlo Ancelotti.
Non, mais je sais, mais il on pourra jamais me sortir qu'Ancelotti, c'est un bon tacticien, c'est un bon entraîneur. C'est un bon manager, pas de souci. C'est un très bon manager.
En fait, moi, je sais pas ce que vous appelez un entraîneur. Excusez-moi, mais peut-être Philippe, tu peux nous donner. Philippe,
c'est un bon technicien.
Voilà, bon technicien.
Les deux vont de pair.
Guardiola, c'est un bon technicien. Unai Emery,
et c'est pas un bon entraîneur. C'est un bon technicien, mais ça n'est pas un bon entraîneur.
Manager, si tu veux.
Voilà, mais tu vois, mais c'est pour ça que tout.
C'est comme Zinedine Zidane, il a gagné 3 Ligues des Champions, c'est extraordinaire, mais c'est pas un bon entraîneur.
Non, c'est pour ça que toi, à son mot, tu peux dire que quelqu'un est un meilleur technicien ou d'autres est un meilleur meneur d'hommes, mais les deux se rejoignent pour être entraîneur. C'est comme ça qu'on gagne des titres, c'est comme ça qu'on mène des victoires. Didier Deschamps, sinon tu vas dire quoi? C'est pas un entraîneur.
J'attends, me faites pas dire ce que j'ai jamais dit.
Attention, attention.
J'ai dit Carlo Ancelotti n'est pas un bon entraîneur. Cette année, Carlo Ancelotti est mauvais. Il n'arrive pas à trouver une équipe.
Attention,
on est à 8 mois du début de saison. On est à 8 mois du début de saison. Qui est-ce ici qui serait capable de donner une équipe type du Real Madrid? Personne.
L'effectif.
Personne, même à 2 joueurs.
Après, ils ont eu beaucoup de blessés.
Si, c'est ça.
Moi aussi, je peux le donner. Mais après, moi, je voulais juste parler de. C'est Courtois.
Bah, t'as le trio
offensif. Mais généralement, c'est bon. Carvajal était blessé, mais Valverde est latéral droit. Il y a.
Je vais regarder.
Il y a Rudiger et Asensio.
Pas que Valverde.
À gauche, c'est Ferland Mendy.
Tu penses donc en Liga, Valverde a joué au-delà de savoir combien ils ont joué de matchs.
Il a joué énormément de matchs.
Plus de matchs que Lucas Vázquez. Vous m'avez dit tous, c'est le remplaçant de Carvajal.
Il a joué plus de matchs que Lucas Vázquez.
Arrière droit.
Oui. Bah, Lucas Vázquez a été blessé aussi.
À chaque fois que je regardais, c'était Lucas Vázquez.
En tout cas, si on sort un peu du Real.
Si tu regardais à partir de la 70e minute, sûrement, parce qu'il faisait des changements.
Ouais, il faisait rentrer Lucas Vázquez.
Même ses changements. Enfin, bref. En tout cas, si on sort un peu du Real, t'as parlé de l'Atlético de Madrid, ouais, je suis d'accord avec toi, franchement, et je suis content, très heureux que l'Atlético Madrid se soit fait sortir par le Barça, parce que j'espère, même si je sais que ça n'arrivera pas, j'espère au moins qu'un jour ils vont tourner la page à Diego Simeone. Ouais. Bravo à lui, grand monsieur, etc., pas de soucis. Lui aussi c'est un tacticien, là on peut le dire, même si j'aime pas du tout son football, c'est un grand tacticien, je sais pas si on peut dire que c'est un grand entraîneur, parce que bon, il a gagné 2 Ligas.
C'est un meneur d'homme aussi.
C'est un meneur d'homme et
il y a deux Ligas face au Real et au Barça qui sont dans la même poule.
Oui. Tu vois, mais deux Ligas en 14 ans, tu vois, c'est compliqué. Ouais,
finale de Ligue des Champions.
Ouais, mais il a jamais gagné.
Parce qu'il tombe toujours sur sa bête noire.
C'est pour ça que moi, c'est un entraîneur que je respecte, il n'y a pas de souci, mais au bout d'un moment, il faut tourner la page. C'est un peu comme Ligue des Champions. Il faut tourner la page. Et quand tu regardes les matchs qu'il propose, mais tu as envie de te dire. Comment tu es supporter de l'Atlético et tu peux te contenter de ça en fait? Parce qu'ils ont vraiment un effectif qui est vraiment bon, celui de l'Atlético de Madrid. C'est l'un des meilleurs. Franchement, il est. L'effectif qu'ils ont, il y a des joueurs techniques, des joueurs combatifs, des joueurs, des profils différents à chaque poste. Ils ont vraiment. Il y a un gardien top class. Ils ont vraiment un effectif ultra cohérent. Et on l'a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la seule année où ils ont joué au football, c'était quand? C'est l'année où Luis Suarez est arrivé, donc c'est 2020-2021. Ouais, l'année 2020-2021, c'est la seule année où ils ont joué au football. Comme par hasard, ils ont gagné la Liga. Sinon, le reste, tout le temps, le même schéma de jeu. Dès qu'ils marquent un but, ils bétonnent derrière. Ils jouent toujours le max nul contre les gros. Ils attendent une ouverture.
Excuse-moi, Alexandre, ça fonctionne, mais...
Vas-y, je vais accélérer. Mais tout ça pour dire que l'Atlético Madrid, j'y crois pas du tout en Liga cette saison. Le Real Madrid, j'espère aussi qu'ils vont pas gagner parce que le jeu qu'ils proposent, c'est cataclysmique. Et pour moi, la seule équipe qui... est digne de gagner cette Liga cette année, qu'on le veuille ou non, je suis désolé, il faut juste regarder les matchs, c'est le FC Barcelone.
Le Real, déjà, ça va être compliqué, ils ont 5 points de retard. Parce que t'en as 4, mais t'as une confrontation directe ou c'est au.
Ouais, mais 4 points, franchement, c'est pas beaucoup.
Si vous êtes à égalité de points, t'es derrière. Du coup,
d'accord, mais par exemple, le Real Madrid a 4 points de retard sur Barcelone. Mais il va y avoir le match,
Donc,
si le Real bat Barcelone, il revient à 1 point.
Non, il faut qu'il les batte 5-0.
Non,
mais même s'il les batte, il revient à 1 point. Effectivement, en cas d'égalité, peut-être.
Si, c'est du goulavage particulier.
C'est les face-à-face qui comptent. Ouais, mais ça ne compte pas la différence des buts des face-à-face. Ce qui compte, c'est la différence des buts de toute la saison que tu as. Mais le Barça sont aussi loin, aussi à cette différence.
Non, mais je veux dire, ils peuvent revenir à un point. Après, tu sais pas, quand tu vois que le Barça fait un match nul ce week-end, tu dis que tout peut arriver, quoi, tu vois.
Mais rien d'alarmant, ce match nul.
Quand tu parlais aussi de la faiblesse de la Ligue 1, je suis désolé, mais L'Atlético, ils marquent un but, je crois, à la 95e, ils gagnent.
Ah, mais ça, je suis pas d'accord. Parce que le championnat cette année de Liga, il est vraiment bon. Et tu as des équipes de seconde zone comme l'Atlético Bilbao qui s'est bagarré pour la deuxième, troisième place jusqu'au bout.
Ils sont à combien?
Quatrième place, hein, ils sont à 6 points de l'Atlético de Madrid.
Oui, là, ils ont un petit peu lâché.
Et ils sont à 6 points de Villarreal, 5e, quoi. Du coup, ils ont un petit peu lâché, mais franchement,
Villarreal, surtout, qui au début de la saison, Villarreal de notre ami, de notre grand ami Marcelino, là, ils étaient bien partis hein, en début de saison.
Non, la Liga cette année, c'est un bon championnat. Il y a juste Gérone et la Real Sociedad qui sont un petit peu en dessous, même le Betis aussi. Mais sinon, globalement, c'est un championnat.
Après, c'est les équipes qui ont du mal à enchaîner, en tout cas Gérone, qui ont du mal à enchaîner Ligue des Champions. Ils ont perdu des joueurs, ils ont vendu leurs joueurs phares, même Dovbik, et ça paraît compliqué. Voilà, en tout cas, pour la Liga. Hein, Barcelone, premier avec 67 points. Real Madrid, deuxième avec 63 points. Troisième, Atlético de Madrid avec 60 points. Quatrième, Atlético Bilbao avec 50 points. On va se faire juste une petite virgule hein, avant de revenir et bien évidemment enchaîner avec la Ligue des Champions. Hein, le Paris Saint-Germain qui vont recevoir Aston Villa à domicile. On aura aussi le Bayern Munich avec une défense décimée, hein, avec des blessés qui auront défié une belle équipe de l'Inter. Et on aura aussi des confrontations entre Dortmund et Barcelone, et aussi entre le Real Madrid et Arsenal. On y revient de suite. De retour pour débriefer en tout cas et analyser tous ces matchs. Arsenal qui vont accueillir Real Madrid à domicile. Hein. Arsenal qui sont favoris lors de ce match aller. Et le Bayern qui vont jouer contre l'Inter. Bayern qui ont l'infirmerie qui se remplit. Hein. Moussiala qui a été blessé. Moussiala qui est un joueur phare de cette équipe. Davis qui s'est blessé il n'y a pas longtemps. Son remplaçant Ito qui s'est blessé aussi en rentrant en jeu. À la même blessure. Hein. C'est très compliqué pour la défense du Bayern, mais Bayern qui reste quand même tout de même favori, légèrement favori face à cette belle équipe de l'Inter. Quelles sont vos appréciations et tout simplement vos impressions et vos analyses, vos pronostics surtout, Philippe, les pronostics sur ces matchs à venir.
Oui, bon, écoute, Paris Saint-Germain, Aston Villa, on va dire que PSG a passé une dimension quand même après le match contre Liverpool, donc ils partent favoris. J'espère que les vieux démons ne reviendront pas, mais bon, il n'y a pas de raison que Paris ne se qualifie pas. Real, Arsenal, moi, je ne suis pas inquiet pour le Real, même si ça ne joue pas très bien. Alors, on sait qu'Arsenal a toujours un moment du mal à passer un certain cap dans toutes les
Ligues
des Champions. Ouais, c'est tout, c'est bon. Les huitièmes, les quarts. Le match le plus spectaculaire, je pense que ça peut être Bayern-Inter. Okay. Et pour moi, on en avait déjà parlé, l'Inter, je vois l'Inter sortir le Bayern. C'est tout à fait possible. Et puis bon, Barcelone-Dortmund, je pense qu'il n'y aura pas photo non plus hein, en faveur du Barça. Dortmund, c'est déjà bien qu'ils soient là, en quart après leur finale de l'an passé.
Merci Philippe.
Donc logiquement, PSG-Real peut-être en demi-finale et puis Barcelone-Dortmund.
Un retour de Kylian Mbappé au parc, plutôt que prévu.
Bah oui, bien sûr.
C'est ça.
Ouais, pourquoi pas.
Okay.
Ça serait bien.
Abou,
Arsenal-Real, moi je vois le Real plutôt. Arsenal, ça va être compliqué. Ouais. Même si Saka il revient bien de blessure là, mais la blessure de Gabriel, pour moi, vraiment, ça met les Gunners dedans. Je pense que ça va être compliqué. Après, le Real, c'est la compétition forte. Hein. C'est leur compétition, c'est leur match, c'est leur ligue. Donc, le Real, je les vois passer. Enfin, en tout cas, gagner déjà, aller chercher le nul demain à Arsenal et conclure tranquillement au Bernabeu. Bayern-Inter, moi, je mets une petite pièce sur le Bayern. Je vois, tout le monde voit l'Inter, tout le monde, parce que l'Inter qui fait une très très grosse saison. Et tout le monde voit l'Inter, mais vraiment favori largement. Moi, je mets quand même une petite pièce sur les hommes de Vincent Kompany, j'ai envie d'y croire. PSG Aston Villa, PSG Aston Villa, oui.
Excusez-moi, on n'entend pas. Oui, à vous.
Paris à domicile contre Aston Villa, ouais, moi je pense que ça doit l'emporter assez facilement. Non, parce qu'Aston Villa aussi qui fait une très très belle saison. Et surtout là, sur les deux, trois derniers mois, qui est vraiment une équipe au top, avec des joueurs recrutés à la mi-saison qui apportent énormément, que ce soit Asensio ou encore Rashford. Mais ça va être un match compliqué pour les hommes d'Unai Emery. Après, on sait aussi que c'est les ex du PSG qui aiment leur faire mal. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais je vois le PSG quand même devant Aston Villa.
Et Asensio qui est en forme d'ailleurs.
Ouais, qui est vraiment.
Avec Rashford, ouais.
Les deux là, ouais, c'est très très
bien. Et une Emery aussi, hein, qui peut avoir quelques rancunes face et à.
En plus, on sait le PSG avec les ex. Ouais, c'est vrai que il marque toujours un but les ex. Ouais. C'est-à-dire, ouais. Vous pouvez mettre Asensio buteur, ça c'est cadeau. Et Barcelone-Dortmund, oui, le Barça assez facilement, je pense. Et ouais, Hansi Flick, c'est un coach sérieux qui va aller, qui va mettre l'équipe type. Ça va l'emporter assez facilement.
Merci
et
à vous.
Et puis on va retrouver notre ami Emiliano Martinez.
Oui, Emiliano Martinez, bien évidemment. Retrouver, ouais. Après Lille, hein, ouais. Parce qu'il était venu déjà en France.
Où il s'est fait copieusement insulter.
Oui, mais il est quand même reparti avec la victoire.
Comme
voilà, comme d'habitude. et c'est ce qu'il aime, hein, voilà, ouais. C'est ce qu'il fait jouir un peu. En tout cas, c'est
je pense
ce qu'il
faudrait,
voilà.
C'est que les supporters parisiens, ils se forcent à ne pas l'insulter. Non, c'est vrai.
C'est impossible. C'est impossible.
De toute façon, il le dit lui-même. Hein. Ils ont jamais été insultés comme ça et tout. Puis après, je leur ai dit, ben voilà.
C'est au-delà du foot, et puis, Martinez.
Ouais, c'est au-delà du foot. Mais ouais. c'est le charisme et tout, il est quand même important sur son équipe et sur le vestiaire et tout ça. Hein. Je pense que franchement, moi, je pense que c'est vraiment un excellent, excellent gardien, excellent joueur par rapport à ce qu'il amène pour une équipe et tout. C'est une des grosses forces d'Aston Villa. Maintenant, moi, c'est pas Asensio ou
Rashford. Trop peur, toi,
non, pas du tout. Hein, non, vraiment, pas du tout. Sûrement, surtout pas Rashford, mais bon, on sait jamais. Mais bon.
Ça te fait pas peur?
Ah non, pas du tout. Hein, oh, non, pas du tout.
Par le passé, il a su éliminer le PSG, Rashford. Hein.
Ouais, c'est des joueurs
dont on se méfie pas, qui font mal souvent.
Rashford, Kerrer, Buffon ou l'arbitre?
Rashford.
Les trois.
Même Mbappé aussi. Même Mbappé s'est mis.
Oh la glissade, ouais, j'en souviens.
Devant le gardien, à tirer. Bref. Donc, moi, l'effectif ne me fait pas très peur. C'est effectivement. J'ai été rassuré par Liverpool. Parce qu'avant, je préférais voir. J'avais peur de ces équipes physiques et tout. Nous, on a. Paris a quand même des petits gabarits, des petits joueurs très techniques et tout. Mais quand on a vu comment. Ils ont fait danser Liverpool sur 3 mi-temps sur 4, quoi, sans compter la prolongation, quoi, dans 5 même.
Danser.
4 sur 5. Je pense que Aston Villa va avoir du mal à faire chose. Mais en foot, tout est possible. On est en quart de finale, on a les meilleurs et tout. Par contre, Bayern, sincèrement, Bayern Munich et Inter Milan, je me trompe peut-être, mais si je peux éviter de le regarder, j'éviterai de le regarder. Hein. Moi, ça va faire 0-0-1-1.
Ah oui, je pense que ça va être fermé.
Ça va faire 2 matchs.
Moi,
je pense que ça va être ouvert.
Moi, je pense au contraire.
Bayern Inter, franchement, ça fait plaisir.
Surtout que la défense. Bayern, ils sont beaucoup offensifs. Du coup, ils s'exposent beaucoup et ça va très vite. Et on sait qu'avec Dumfries et Barella, ça va très vite aussi sur les ailes. Moi, je pense que ça va être.
Mais je pense aussi, moi, que.
Un beau match à voir.
Je pense qu'il va être favori.
Moi, je pense que le retour va être plus fermé que l'aller.
Ah oui, oui. Le retour, c'est pour ça que je dis.
Le retour à San Siro et tout, je pense que ça va être chiant pour le Bayern. Mais là,
tout dépendra du score de l'aller.
C'est pour ça que je pense qu'à l'aller, ils vont lâcher les vannes. Ils vont essayer d'y aller à fond. Et après, on verra ce que ça donne.
Alexandre ?
Arsenal-Real. Le Real va passer. De toute façon, Arsenal... comme tu as dit, Philippe, hein, Arsenal, ils ont un plafond de verre en quart de finale depuis des années et des années.
Donc, mais pas que. Pour le titre aussi, ils ont un plafond de verre.
Pour le titre aussi, pour tout, ils ont un plafond de verre. C'est une équipe de plafond de verre.
Ouais.
Donc voilà, je pense que le Real va passer. Bien sûr, hein, ce ne sera pas mérité comme d'habitude, ce ne sera pas beau dans le jeu comme d'habitude, ça se jouera sur un film, mais le Real va passer. Bayern, Inter, je pense que l'Inter Milan va passer, mais je pense que ça va être un match qui sera plutôt fermé. Parce que Compagnie, comme tu as dit, Compagnie, d'habitude, il se livre beaucoup, mais là, je pense que justement, il a pris de la leçon. En plus, il y a beaucoup de blessés en défense, donc je pense qu'il va. Ce sera un match plutôt fermé, je pense que Compagnie va essayer de sécuriser un maximum. Et après, c'était Paris, pour moi, va passer. Paris, il n'y aura pas trop de débat. Parce que bon, là, il y a pas mal de supporters de Paris autour de la table ou de supporters de Marseille. Du coup, faites la fine bouche un peu. Mais moi, je vous le dis, en tant qu'observateur, je pense que Paris va passer de manière plutôt maîtrisée. Peut-être pas largement, mais de manière plutôt maîtrisée. Et je pense même que Paris va vraiment pas se faire peur, en fait.
C'est quoi
je
de manière maîtrisée?
De manière maîtrisée, c'est-à-dire qu'ils vont bien gérer leur temps fort et leur temps faible. Ils vont marquer au moment où il faut marquer et leur temps faible, ils vont se prendre le moins de buts possible. Là où c'était justement, comme je l'avais dit, les points faibles de Paris, c'est de se prendre des buts dans les moments où ils subissent beaucoup de vagues. Mais là, je pense, quand je dis maîtriser, c'est par exemple, je sais pas moi, l'aller, il est où? Il est à
Paris.
À Paris.
Je pense qu'ils vont gagner, par exemple, 2-0 ou 2-1 à l'aller. Et puis au retour, ils vont match nul ou 2-1 aussi.
Et c'est maîtrisé en gagnant 2-1 à l'aller. Oui, bah,
tout dépend,
match retour,
bien sûr, tout dépend du contenu du match. Tout dépend du contenu du match, tu vois. Si tu gagnes 2-0 et que tu te prends le but à la fin, ça va, tu vas se maîtriser. Mais en tout cas, et pour le Barça, je pense que, sans trop m'avancer, je pense que le FC Barcelone va passer. Parce que Dortmund, comme a dit Philippe, c'est heureux qu'il soit là. Lille a vraiment laissé passer sa chance, mais en tout cas, je pense que Barcelone va passer. Voilà.
Merci Alexandre. Salson ?
Ouais, je vais aller plus vite, hein, un peu plus vite. Bon, déjà, le FC Barcelone, pour moi, ça va passer. T'as Bayern Inter, pour moi, Inter, ça va passer. Je dis pas que l'Inter va passer facilement, attention, ça restera deux belles confrontations. Et déjà, je suis même étonné que Compagnie, parce qu'au début de saison, j'avoue, je le voyais pas amener le Bayern jusqu'à là où il les a ramenés, hein, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. C'est déjà un beau parcours pour sa part avec le Bayern. Et tu as le Paris Saint-Germain qui, pour moi, doit passer.
Tu peux le dire, dis-le, va passer.
Non, va passer, il doit passer. Non, on va rester. Ça reste du football. On ne sait pas, comme a dit Philippe tout à l'heure, les vieux démons peuvent revenir et on connaît le Paris Saint-Germain là-dessus. Et après, on nous reste quoi comme match encore? Le Real Arsenal, moi je vais peut-être vous étonner, mais attention, on peut y avoir des surprises. Hein, parce
qu'on joue à 12 le Real, quoi. Donc.
Parce que oui, mais le Real, quand tu regardes en Coupe du Roi ou autre, moi derrière, cette saison, le Real Madrid, j'ai pas confiance en eux cette saison. Cette saison, derrière, c'est fébrile, c'est pas bon du tout. Ça prend beaucoup de buts. Et ça peut jouer à là. S'ils ne sont pas costauds dans ce domaine-là, ils risquent de se faire eux-mêmes la surprise. De créer là. Il peut y avoir une surprise, attention. Mais je vois quand même le Real favori dans cette double confrontation.
Merci Salson. Merci à vous messieurs pour ces analyses sur la Ligue des Champions. On va se faire juste une petite virgule avant de passer à la Ligue Europa. Hein, la Ligue Europa, Lyon qui vont accueillir Manchester United, Bodo Glimt face à la Lazio Rome, Rangers Atletico Bilbao et Tottenham Francfort. On veut savoir vos avis et vos analyses sur ces matchs à venir.
Je disais que je ne sais pas si c'était à l'antenne qu'on parlait tout à l'heure, j'ai vérifié sur un site spécialisé et tout. Valverde, il est marqué comme ayant joué 3 matchs en Liga cette saison.
Non, mais sur le papier, oui. Mais
ah, d'accord,
mais...
Non, mais je dis juste ça, voilà.
Donc, non, moi, non, mais regarde les matchs.
Mais j'ai regardé les matchs. Il y a des sites spécialisés qui te mettent les minutes des joueurs et qui mettent la place à laquelle ils ont joué. Et en Liga, c'est il a Vasquez joué 3 matchs à arrière-droit.
Voilà. C'est Vasquez qui a joué plus de matchs à arrière-droit.
Ben voilà, il dit pareil que moi. Et voilà. Alors, ben, effectivement, après, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Peut-être que je me trompe et tout. Peut-être que le site se trompe. Mais voilà. Et il joue pas. Que je sache, le Real Madrid n'a jamais joué ou très rarement joué à 3 défenseurs centraux. Quoi.
On va juste pas rouvrir le débat.
Ouais, ouais.
Stéphane, merci. On va parler de Tottenham-Francfort. Qu'est-ce que t'en as pensé
Ben moi, je pense qu'il n'y a pas photo sur le fait que Francfort passe. Hein.
Comment ?
Sur le fait que Francfort passe, je pense qu'il n'y a pas photo. Même si Francfort, ils ont un petit coup de moins bien.
Attention à ces équipes anglaises quand même, voilà. Qui ont que ça à jouer. Hein,
oui, mais alors après, c'est aussi un peu. C'est pour ça, c'est normal que je dise ça, parce que vous connaissez tous, moi, ce que je pense de la Première Ligue. C'est un peu le fantasme de la Première Ligue. De toute façon, t'es un club anglais de Première Ligue, t'as un nom qui est un peu connu, donc forcément, t'es favori, tu vas gagner, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que je pense que Lyon est favori face à Manchester United, et je pense que Francfort est favori par rapport à Tottenham, tout en disant qu'on est en quart de finale et que tout peut arriver, le foot, hein, comme pour... On sait très bien que le foot, à ce niveau-là, ça peut être... Il peut y avoir un tout petit détail qui fait basculer le match, et etc. Mais je pense que Francfort est normalement, quand Francfort est favori, quoi. Par exemple, sur ce match, Lyon pour Manchester United. Les autres matchs, c'est quoi tu as dit tout à l'heure?
Rangers, Atletico Bilbao.
Bon, sûr, je ne regarderai pas non plus. Hein. Je veux te dire que ouais.
Si, ils jouent bien, Bilbao, je vous assure.
Ah, et Rangers aussi, ils jouent bien.
Ah oui, ils jouent bien.
Ils sont vainqueurs d'ailleurs. Oui, Rangers, ils jouent bien.
Je ne suis pas sûr que Bilbao, cette année. Ouais.
Et le dernier
Bodo Glimt, Lazio.
Oui, là, d'accord.
C'est
là,
pas pareil, même Bodo/Glimt, hein, si vous suivez un peu ce que Bodo/Glimt font.
Non, moi,
en Europe, en tout cas.
J'avoue, c'est, coupable, c'est des j'ai équipes... pas trop suivi.
Ouais, là, c'est difficile.
À part contre peut-être Nice, ouais, quand on jouait Nice. Mais, Et puis, bon, Ladio, il propose des choses intéressantes. Sont... Non, je pense que Ladio va passer quand même.
Merci.
Lyon, Manchester, je suis entièrement d'accord avec vous tous. Hein. Il n'y a aucun complexe à faire pour les Lyonnais face à Manchester United.
Ah non, moi je suis pas d'accord. Après, c'est peut-être le reste
tu
de la table.
Que Manchester
moi, je pense que Manchester, bien évidemment. Moi, j'ai vu Manchester United en Coupe d'Europe. En fait, faut les voir jouer. Or que ça n'a rien à voir avec la Première Ligue.
Moi, je les vois.
Mais c'est pas la même chose face en Première Ligue que
la Sociedad, c'était pas ultra maîtrisé.
En Ligue Europa. Comment?
Moi, j'ai vu.
La Sociedad, c'était pas ultra maîtrisé. Il y a eu 4-1, mais franchement.
Ah oui. Il y a eu une expulsion, je crois, non? Parce
que, oui, il y a eu une expulsion.
À la fin.
Il y avait 0-0, je crois, non?
Non, il y avait un partout. Et il
marque, juste que la campagne
il marque
United,
les deux buts
juste
fin,
la campagne ouais, de United ouais. en Ligue Europa, je pense que ça vaut le ton de ne pas mettre les chars avant la bœuf, comme on peut dire, ou en tout cas Lyon, les mettre favoris d'office, en sachant que Lyon, ils ont quand même déçu dans quelques matchs où on pensait que Lyon, ça allait être facile en Ligue Europa et c'était compliqué qu'ils se compliquaient la tâche. Attention à cette équipe de United, moi je dis juste ça. Faut avoir une réserve quand même.
Moi je dis que Lyon est peut-être favori, mais peut-être de vraiment pas du tout beaucoup. Et surtout, c'est ça qui a le retour en Angleterre avec une équipe qui a énormément d'expérience. Quand bien même elle est complètement à côté de la plaque et tout, il y a des joueurs qui peuvent se révéler ou se montrer. Performant sur ce match-là, effectivement. Puis Lyon, c'est pareil, hein, Lyon, on ne sait pas. Hein, Lyon, ils ont joué le Havre en Ligue 1 il n'y a pas longtemps. Ils étaient menés, ils sont sortis un peu comme ça. C'est un peu du one again, quoi. C'est pas vraiment, il n'y a pas de grosse sécurité quand même à Lyon. Il s'est fait complètement renverser en deuxième mi-temps à Strasbourg après une très bonne première mi-temps.
Merci Stéphane.
Il faut pas oublier que la Ligue Europa, c'est quand même la Coupe d'Europe des 5e, 6e. Ouais. Donc fatalement. Bon.
Du coup, alors Philippe, excuse-moi.
Bah, écoute, Glasgow, sinon.
Ouais.
L'autre match, c'était la Lazio-Drome. Ouais. Et puis le dernier, moi je mettrais peut-être Tottenham. Ouais. Ouais,
Rangers-Bilbao.
Ouais, ouais. Ouais, allez. Bah Francfort, c'est pas. Bon, voilà. Donc, allez, une petite pièce pour Tottenham, mais bon.
Contre Francfort. Ouais.
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 Merci. Philippe, à bout.
Alors moi je vois United plutôt que Lyon. Ouais, je vois pas les Lyonnais passer l'étape de Manchester United. C'est vrai que les résultats en Première Ligue, ils sont trompeurs. Et encore là, ils avaient un moment de bien. Là, il y a un moment de creux qui fait qu'on peut penser que Lyon est au-dessus, mais je suis pas sûr que Lyon soit tant au-dessus que ça de Manchester United. Ladio Bodo/Glimt, bon, on apprécie ta culture foot et là, on apprécie que tu regardes des matchs à l'étranger, mais Bodo/Glimt,
ils ont joué.
même la saison dernière, Bodo/Glimt ont fait du mal à l'AS Rome de Mourinho.
Je te crois, je sais juste pas qui est cette équipe.
Ah oui, c'est une bonne équipe.
Quel pays c'est à vous?
Norvège, c'est la Norvège quand même. Mais ils sont premiers du championnat, un championnat qui compte deux journées, là, à l'heure où je vous parle. Mais ouais, Bodo/Glimt.
Ah, ils viennent de commencer.
Bodo/Glimt, ça a l'air d'être une belle équipe. Mais la Lazio, j'ai confiance. Et en plus, pour Matteo Guendouzi, j'espère qu'ils feront un beau parcours. Rangers.
Ah, ils joueront pas, je crois. C'est prévu déjà.
Bah, pourquoi ils joueraient pas?
Parce qu'il va mettre toutes les chances de son côté. C'est prévu.
Mais il est titulaire cette saison.
C'est le match.
Match qu'il joue pas, c'est quand il est suspendu. Ce week-end, par exemple, il a pas joué.
À bout poursuivre, s'il te plaît.
Rangers Bilbao, ouais, je pense que ça va être un match serré, disputé. C'est peut-être le seul match où on pourrait croire que Bilbao va passer, mais petite pièce sur le Rangers, ouais. Et Tottenham Francfort, pareil, j'ai envie de prendre Stéphane à contre-pied et plutôt mettre Tottenham, qui n'ont plus que ça à jouer, en fait. Tu joues littéralement presque le maintien, enfin, pas vraiment le maintien, parce que tu vas te maintenir en Première Ligue, mais il ne te reste plus que ça. Et le fait qu'ils aient pas viré le coach, moi, je trouve que c'est une bonne chose. On a cette facilité à virer, alors que la saison dernière, il fait une très, très bonne saison.
Ouais.
Et je pense que la Ligue Europa, ça peut être un moyen de se rattraper, de prendre un trophée et de se qualifier par ce biais-là, du coup, en Ligue des Champions.
En Ligue Europa.
En Ligue
des Champions, merci à vous. Voilà.
Tu vas être le défi pour United aussi, la qualification en Ligue des Champions.
C'est Lyon, hein. Ouais, aussi.
C'est vrai aussi. Ouais, après, Lyon, je pense qu'ils peuvent le faire par le championnat. Ça va être plus simple par le championnat pour eux.
Bodo/Glimt aussi. Merci à vous. Alexandre,
rapidement, Tottenham Francfort. Tottenham doit gagner, mais je pense que Francfort passera. Bodo Glimt Lazio, la Lazio va passer. Rangers Bilbao, ce sera serré, mais je pense que Bilbao va passer. Et Lyon Manchester United, Lyon doit passer, mais ce sera United qui va passer.
Merci Alexandre. Salson,
il reste que moi. Donc, oui. United contre Lyon, moi je vois bien United, hein. Ils ont que ça à jouer. Et avec la saison qu'ils font en première ligue, ils sont obligés de se rattraper sur la Ligue Europa. Même si Lyon, en ce moment, c'est pas mauvais. Là, la Jérôme, moi je les vois passer parce que Bodo Glimt, j'ai un peu de mal.
Glimt.
Je ne connais pas très bien cette équipe et je pense pas que la Lazio.
Bah, on en parlera.
Tu vois quelqu'un qui gagne la Ligue Europa.
On en reparlera.
Je vois la Lazio passer, surtout que le retour il est chez eux. Rangers Bilbao, franchement, ça va être un match un peu.
Ça va se bagarrer. Hein.
Ça va être un match bizarre, ça, je le sens. Même si je mets une pièce quand même sur Bilbao, parce que c'est quand même Bilbao, ils ont quand même une expérience en Ligue Europa, comme les Rangers aussi.
Ah oui.
Mais moi, je pense plus pour Bilbao et pour Tottenham, Francfort, ça, c'est là, ce match-là, il est compliqué. Mais ouais, je rejoins à bout sur le fait que Tottenham a que ça à jouer et est obligé de se rattraper en vue de leur saison qu'ils sont en train de réaliser.
Et Lyon, Manchester United, t'as dit
Non, je vois Lyon United.
Oublie pas à bout à Francfort le réveil d'un ancien Marseillais.
Eliwai.
Ah oui.
Bah, du coup, tu peux mettre Tottenham. Mais deux fois plus d'argent sur Tottenham.
Si
J'avais oublié quand il était à Francfort. Non, deux fois plus d'argent
blessé,
sur Tottenham.
Et en plus, si Stéphane il est lié pour Francfort, là, c'est sûr que Tottenham.
En vrai, on n'en a pas parlé, mais la nouvelle formule de la Ligue des Champions, Ligue Europa, c'est une bonne chose pour la Ligue Europa. Parce que ça permet d'avoir des duels assez équilibrés. Parce que là, on le voit depuis tout à l'heure, on ne sait pas qui va. Alors qu'avant, tu avais les versets de la Ligue des Champions.
Mais on est quand même en quart de finale là. C'est normal que ça soit équilibré en quart de finale. Moi je pense avant les quarts de finale, tu t'y intéresses pas vraiment parce que.
Ouais, mais l'année dernière, t'avais quand même des Liverpool en quart de finale où tu savais que c'était plié. Bon, après, ils se sont fait éliminer.
Encore, c'était deux fois.
Par l'Atalanta.
En 16ème, t'avais Séville, arrivé de Ligue des Champions déjà.
Bah oui, en fait, le 3ème de Ligue des Champions, ils sont pas renversés. Je trouve que c'est une bonne chose.
Mais moi, les formules, moi je l'ai dit, franchement, elles sont appréciables. Elles sont très intéressantes. Tout le monde se rend compte, il n'y a pas de match aller-retour. Enfin, avant les phases. Moi, je préfère cette formule-là.
La formule aussi, mais le problème c'est qu'il y a trop de matchs en fait.
Oui,
trop de matchs.
C'est vrai, je pense qu'ils doivent peut-être te retirer mais sinon le format lui-même il est super.
J'étais réticent, mais en vrai il est
parce que moi personnellement j'ai du mal, bon ce sera tout un autre débat, mais j'ai du mal à comprendre qu'on puisse dire il y a trop de matchs. Moi par exemple j'apprécie de regarder jouer le Paris Saint-Germain, j'étais content quand tu vois le niveau en plus de la Ligue 1 comme tu l'as souligné toi-même. J'étais content de voir jouer le PSG 8 matchs en Ligue des Champions. Moi, je trouve que c'est.
Mais sur le long terme, ça va tuer le
foot. Moi, je trouve ça excellent.
Tu penses pour le physique des joueurs
Et au contraire, ça.
Non, qu'on parle pas de ça. Pour la qualité. On va faire
excusez-moi,
un débat,
non, on va clôturer.
Ouais,
Merci bien. En tout cas, on va revenir la semaine prochaine pour débattre sur ces matchs-là, hein, bien évidemment. On va se faire juste une petite virgule avant de revenir pour le quiz fatal de cette journée. Hein. Du coup, petite virgule suivie. Du petit quiz de la fin d'émission. Messieurs, s'il vous plaît, posez vos téléphones et vos tablettes, bien évidemment. On va commencer le petit quiz. On attend que Jason nous lance le chrono et ça sera parti. On va compter le nombre de points. Jason, si tu peux compter le nombre de points pour les joueurs, s'il te plaît. Merci beaucoup, Jason. Qui a gagné la Coupe de la Ligue en 2019 ?
PSG.
C'est Rennes.
Non, Rennes.
Non, Rennes, c'est la Coupe de France.
Strasbourg.
Strasbourg pour Philippe.
Contre Guingamp. Contre Guingamp.
Ah oui, c'est ça.
Les
20 dernières années.
Doucement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, du coup, ça fait 1-0 pour Philippe. On va passer à la deuxième question. Meilleur buteur de la Ligue 1 en 2011-2012.
Giroud. Je m'en rappelle.
Giroud, j'allais le dire.
Un point, et il y en a un deuxième qui a été à égalité de points. Non. Ah, Giroud, ça m'étonne que Stéphane, tu ne l'aies pas trouvé.
Attends. Eh, c'était égalité avec qui? C'était 21-21. C'était 21-21, carrément.
Exactement.
Attends, 21-21.
Ça fait un point déjà pour Salé.
Delors, non?
Merde, c'est pas Delors. Non.
C'est Montpellier qui est champion de France cette année-là.
C'est Montpellier, 2011-2012. C'est Montpellier qui l'a pris. Giroud, meilleur buteur à ce moment-là.
C'est un joueur du Montpellier.
Non, c'est un joueur du Paris Saint-Germain.
Paul Eta.
Non, c'est Néné. C'est pas Néné.
C'est Néné.
C'est Néné. Il a marqué 21 buts, Néné.
Excusez-moi, pas tous en même temps, juste. Voilà. Ça fait un point pour Alexandre.
J'étais moche au travail.
On va passer à la troisième question. Qui a gagné la Liga en 2003-2004?
C'est Valence.
C'est Valence. Et un point pour Alexandre. Qui est le meilleur buteur du championnat allemand en
2014-2015?
Lewandowski.
Non.
Reus.
Non plus.
C'est Mandzukic.
Klose.
Meyer, Klose.
Ah, c'est Mario Gomez.
Klose, il a arrêté.
Non, il n'était pas...
Qui est en pétard à ce moment-là?
Qui est en pétard à ce moment-là? Robben, non?
Non.
Ribéry?
Ribéry?
Non.
2014-2015, t'as dit?
Oui, saison 2014-2015.
C'est pas Lewandowski.
Non plus.
Il était où?
Ah non, ça doit être... C'est qui le 9 de Dortmund?
Je vais vous donner un indice. Ce joueur, c'était un attaquant de Francfort.
Ok. Eliway.
Ouh là là, je vais pas l'avoir.
Laisse tomber, on l'aura pas.
C'est quoi, international quoi?
Je peux pas vous donner. Mais vous...
Europe, vas-y.
Non, mais dis-donc.
Europe, mais vous pouvez pas. C'est bon?
Vas-y.
Je vous le donne. Bah, c'était Alexander Meyer.
Non, je m'en jamais vu.
On t'aurait pu donner un truc, je l'aurais pas trouvé.
C'est marrant, on oublie tout à chaque fois. Alexander Meyer. Non, mais je pensais au plus à Stéphane et à Philippe qui auraient pu le trouver. Hein.
Voilà.
Non,
on va savoir, nous, 2014-2015.
On va enchaîner une petite dernière parce que c'est l'heure, on aurait aimé continuer, mais une petite dernière. Et celle-là, c'est la question en or. Celle qui la trouve, ça sera gagné. Qui a gagné la Copa América en 2001?
Wow,
le Pérou. Chili.
Argentine.
Argentine. Chili.
L'Uruguay. L'Uruguay.
Non, Venezuela.
Le Brésil.
Bolivie. Colombie.
La Colombie.
Non, mais on les a tous.
La Colombie ont gagné 1-0 face au Mexique avec un but
le Mexique
de
la Copa América.
Cordoba. Oui. Et voilà.
Moi je pense que si tu fais ce jeu là, dès qu'il y a quelqu'un qui donne une mauvaise réponse, il est éliminé automatiquement.
Je suis d'accord.
Ouais, c'est vrai. On y pensera pour les prochaines. Merci Salson. Merci à Alexandre. Merci à Abou. Merci à Philippe. Voilà. Merci à Stéphane. Merci à Salson.
Merci à toi.
Merci à Jason à la technique. Hein, et merci à Maison du Handball qui nous ont accueillis aussi pour cette belle émission.
Le foot
et,
qui était à la rencontre du handball.
Voilà, le foot qui était à la rencontre du handball, ça reste le ballon rond. Et on espère vous voir la semaine prochaine à la même heure et on vous dit bonne semaine de football à vous et prenez soin de vous, bonne soirée à vous et à très bientôt.
EFA.